BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs ou des meilleures investisseuses. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi. Bonjour à vous qui nous écoutez en podcast peut-être à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes mercredi 3 juillet 2024. Au programme de l'émission, comment se rassurer quand la bourse est totalement emmenée par 10 sociétés. Félix Baron, des investisseurs indépendants du Club des investisseurs indépendants, va nous parler des GAFAM, mais aussi de Costco, de Broadcom ou encore d'Eli Lilly qui pèse 50% du Nasdaq 100 et plus d'un tiers du S&P 500. Vous êtes étudiant, acheter un studio sera peut-être votre seul choix pour vous loger à la rentrée. Vous êtes parent, même constat pour loger votre progéniture. Stéphane Descartier est inquiet, mais elle va nous donner quelques conseils pratiques et pragmatiques. À 10h30, votre dose d'économie. Nicolas nous parlera d'immobilier lui aussi. Il va nous dire que malgré le désordre, eh bien, les taux immobiliers continuent à baisser. Côté bourse, Antoine Larigauderie est déjà connecté depuis Euronext. Nos deux traders à suivre pour le match des traders. On vous coach aujourd'hui. On parlera de comment bien choisir sa plateforme d'investissement en crowdfunding. C'est Grégory Guillemin qui va nous conseiller. On zoomera sur une valeur aujourd'hui qui illustre le sud de la France, la société Robertet du côté de Grasse. On fera ça avec l'équipe Tiepolo. Et puis, le question-réponse du jour portera sur les infrastructures. Faut-il investir dans les infrastructures de transition énergétique? Sont-elles un placement d'avenir? Souleymane Jean Galadima, le cofondateur du Family Office Sapiens, va nous dire pourquoi regarder de près ces infrastructures. Au programme, il y a vous. Vous êtes nombreux à nous suivre et à nous écouter, à nous écrire, comme Patrick qui nous demande quels sont les sites, les plateformes qui permettent des placements dans une start-up. Il nous dit Tudigo apparaît souvent comme une société sérieuse. Est-ce qu'il existe un organisme de certification? On va vous répondre tout à l'heure, Patrick, avec Grégory Guillemin vers 10h45. Mais avant ça, il est l'heure de passer une tête à Euronext, rejoindre Antoine Larigauderie pour prendre le pouls de notre CAC 40 ce matin qui est dans le vert.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
Sent un petit peu plus détendu notre CAC 40 ce matin. Antoine, on vous retrouve dans un climat plutôt, si je peux me permettre, positif.
Effectivement, un CAC 40 qui gagne 0,67%, 7588 points. C'est plus du côté de l'ambiance finalement qu'il y a quelque chose d'un peu apaisé, on va dire. La situation était encore bien tendue. Hier, on a senti de la volatilité, du stress. Là, ce matin, la tendance est un petit peu plus saine. Tiens, notez une belle pointe de l'Euronext Tech Leaders, notre Nasdaq hein, qui gagne 1,3% à l'indice riche en valeur technologique. On a un DAX à Francfort qui prend tranquillement 0,37% et plus 0,66% pour l'Eurostock 50. Alors, à noter un meilleur climat du côté de Wall Street, une certaine détente sur les taux obligataires 10 ans qui explique aussi ce retour d'un sentiment un petit peu plus positif sur les marchés. On détaillera ça tout à l'heure. Alors, Eurofins Scientifique, hein, dont vous avez entendu parler dans le journal, poursuit son rattrapage, hein, plus 2,9% à 45,48 €. Rattrapage aussi pour le secteur bancaire avec Société Générale qui prend 2,36 € à 22,99 €. BNP Paribas plus 1,9 € à 62,42 €. Et puis ArcelorMittal vient s'intercaler, plus 2% à 21,58 €. ST Microélectronique, dont la tech gagne 2,2% à 37,91 €. Rattrapage aussi pour plusieurs titres qui ont été vraiment maltraités ces derniers mois, notamment EuroAPI, leader des progressions sur le SBF 120, plus 4,7% à 2,68 €. On a Aperam aussi, plus 4,1% à 25,90 €. En revanche, à la baisse, Casino, moins 2,88 € à 3,50 €. Atos, moins 3,17 € à 88 centimes, hein, nos deux malades du moment. Et puis à noter Valneva aussi, moins 1,2% à 3,26 €. Sur le CAC 40, Publicis recule de 0,3% à 97,88 €. Et puis, la plus forte baisse du moment, c'est Unibail Rodamco Westfield, moins 0,35 €, 74,94 €. Le CAC, donc plus 0,75%. On arrive au contact des 7600 points, tranquillement. L'euro, 1,0757 $, Lorraine.
Voilà, retour d'un sentiment plus positif. On vous retrouve dans une heure, Antoine, pour un autre point marché et puis aussi pour votre histoire financière. Vous reviendrez justement sur ce sentiment qui change avec les records du côté Wall Street, une baisse de la volatilité, accalmie sur les taux. Bon, est-ce que ça va mieux? Vous nous direz ça dans une heure. Avant ça, le journal.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Une revue de presse rapide pour se tenir informé des actualités patrimoniales, financières et boursières qui vous intéressent. Un mot de Tesla d'abord. Surprise hier chez Tesla. Le géant de la voiture verte et électrique a annoncé des ventes trimestrielles supérieures au consensus des analystes. Le groupe d'Elon Musk a ainsi livré près de 444 000 véhicules au deuxième trimestre dans le monde. C'est en baisse de 4,70% sur un an. Mais dans un marché où les constructeurs ont des difficultés à séduire avec leurs modèles électriques, eh bien c'est plutôt une bonne surprise qui a propulsé le titre Tesla 10% plus haut. Les analystes de Wedbush estiment que le pire est derrière le constructeur et ce grâce au, je cite, mini-rebond de la Chine en Chine et une stabilisation des prix. Ce n'est pas juste Taylor Swift, c'est ce que dit la présidente de la Banque Centrale Européenne qui surveille l'inflation. Et cette chanteuse américaine, Taylor Swift, vous la connaissez, elle a un tel impact qu'aujourd'hui, dans le lexique financier, on a des termes comme Swiftflation ou Swifteconomics qui sont entrés dans notre vocabulaire quotidien. Certains analystes pensent même que l'impact de sa tournée au Royaume-Uni pourrait inciter la Banque d'Angleterre à retarder ses baisses de taux. Côté Europe, côté France, Christine Lagarde, explique que l'inflation stable dans les services le mois dernier dans la zone euro n'est pas uniquement due à la tournée de cette chanteuse, mais aussi à d'autres artistes comme Bruce Springsteen, Pink et Sting pour les amateurs. Les loyers baissent à Londres. Un petit mot de cette crise de la location de logement dans la capitale anglaise qui a montré des premiers signes d'accalmie. Alors, ça ne sert pas forcément de comparaison, mais c'est toujours intéressant de noter que l'augmentation du nombre de biens disponibles a entraîné la plus faible hausse des loyers. Le portail immobilier de référence en ligne Rightmove a indiqué que les loyers dans la capitale britannique ont augmenté de 4% par rapport à l'année précédente en mai. La moyenne reste à un niveau astronomique. En pounds, c'est au-dessus de 2600 pounds, mais c'est 3350 dollars par mois. Cette augmentation est également plus lente que celle des salaires. C'est le signe que la crise brutale du coût de la vie s'atténue de l'autre côté de la Manche. Au programme économique aujourd'hui, calendrier chargé, Christine Lagarde prendra la parole en fin d'après-midi pour clôturer le forum annuel organisé par la BCE qui se tient au Portugal du côté de Sintra. À surveiller le CPI de la Turquie ainsi que les PMI de l'Espagne, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, de la zone euro et du Royaume-Uni. Côté États-Unis, on attend l'enquête sur l'emploi d'ADP, les inscriptions au chômage, les commandes d'usines et les stocks pétroliers. Il y aura aussi les minutes du dernier FOMC meeting ainsi que Williams qui prendra la parole du côté de la Fed. Même si les USA seront fermés demain, on a pas mal de choses pour s'occuper. On va partir chez nos traders pour faire le point sur la séance en cours et identifier les niveaux techniques à surveiller aujourd'hui.
Tout pour investir, le match des traders.
L'équipe du mercredi, c'est Valentin Nico de l'équipe Bourse Direct et puis Antoine Fraissoulier de chez Itoro. Antoine, on va démarrer avec vous. Comment envisagez-vous la journée? Quels sont les loyers, les niveaux techniques pardon, que vous surveillez?
Oui, alors la journée a été positive hein, puisque le CAC 40 progresse de 0,8% hein, depuis le début de la séance. On vient de dépasser les 7600 points. Alors c'est vrai qu'on a un CAC 40, vous parliez d'un climat un petit peu plus serein, entre guillemets, effectivement sur les marchés. Alors il y a deux catalyseurs positifs hein, pour les marchés, on va dire français et européens. Tout d'abord, le marché américain hein, qui continue à faire des plus hauts historiques. On l'a vu encore hier, le S&P 500, le Nasdaq qui a atteint les 20 000 points. Donc on a ces marchés américains qui tirent quand même les marchés internationaux vers le haut. Et puis les investisseurs regardent aussi les marchés obligataires et notamment le fameux spread entre le taux allemand à 10 ans et le taux français à 10 ans. Et on voit que ce spread se réduit. Alors, pas énormément non plus, hein. C'est quelques petits points de base, mais on voit que ça se réduit et donc ça signifie qu'il y a beaucoup moins de tension sur le marché obligataire et ceci est dû aussi au fait que, alors on va pas parler politique hein, bien évidemment, mais qu'il y a pas mal de désistements et donc moins de potentiellement de triangulaires et donc potentiellement moins une majorité absolue de la part du RN. Et donc, par conséquent, ces catalyseurs font que on ne baisse plus sur le CAC 40. Alors, c'est pas non plus l'euphorie, hein, puisque depuis la fin du premier tour, hein, donc depuis lundi, on est sur une hausse hein, de 1,5%, donc c'est pas non plus extraordinaire, sachant que le CAC perd 9% depuis ses plus hauts. Mais toutefois, une certaine accalmie. Alors, les Américains seront, eux, fermés demain parce que c'est la fête nationale aux États-Unis. Donc, on n'aura pas de catalyseur américain. Et vendredi, on aura les chiffres de l'emploi qui pourront potentiellement donner une direction. Concernant les niveaux, rapidement, sur le CAC 40, eh bien, en haut, c'est 7720. Et en bas, 7460. Donc, 7460, c'est vraiment le niveau de support qu'on a testé à trois reprises et qui tient pour l'instant.
Valentin, Nico, bonjour. De votre côté, chez Bourse Direct, que surveillez-vous? Et qu'est-ce que vous pouvez partager rapidement avec ceux et celles qui nous suivent ce matin et qui ont des questions sur la séance en cours?
Ouais, c'est vrai que depuis le début de semaine, on sent clairement la levée des incertitudes qu'il y avait en direction de la France. Pour quelles raisons? C'est vrai que, comme en a parlé l'interlocuteur précédent, on a donc moins de chances d'avoir une assemblée qui a une majorité, et donc il y a peu de chances qu'on mette en place des politiques qui changent vraiment, ce qui rassure simplement les marchés. Et donc on a eu une belle séance lundi. Ça se poursuit plutôt ce matin, même s'il semble que on n'ait pas une énorme dynamique derrière. Il y a tout de même les beaux jours qui arrivent, et puis dans le volume, on sent clairement qu'il y a peu d'actions qui sont faites de la part des opérateurs. Nous, on penche plutôt donc sur un scénario de latéralisation dans un range. On a comme support 7592, et on aurait donc 7980. Donc c'est un range plutôt large. On serait très négatif si on passait sous les 7478, auquel cas on viserait 7300 points. Mais on part plutôt, voilà, je vous dis, d'un postulat de latéralisation, et donc peu de prise d'initiative, peu de volume. Ça bougera peut-être à 14h30 avec les créations d'emplois et Christine Lagarde à 16h, mais il risque peu de mouvement sur la séance, je pense, d'aujourd'hui.
Voilà ce qu'on peut anticiper pour vous qui nous suiviez en direct. Il est 10h16. L'analyse technique, les marchés, c'est aussi à suivre dans BFM Bourse dès 15h30 avec Guillaume Sommerer et toute l'équipe mobilisée pour vous aider dans vos investissements. Merci beaucoup Valentin, Nico de Bourse Direct, et merci Antoine Fraissoulier, responsable de l'analyse des marchés chez eToro. On continue à couvrir l'actualité financière patrimoniale qui vous concerne. À suivre, on va parler de logements étudiants, mais on va aussi parler de Wall Street au paradis.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
C'est mercredi, Félix Baron, le fondateur du Club des investisseurs indépendants, est parmi nous. Bonjour cher Félix.
Bonjour Lorraine.
Et Stéphane Descartiers, dirigeant de SD Conseil et Formation, notre monsieur coup de gueule immobilier, est également parmi nous, malgré le fait qu'on soit mercredi. Bonjour Stéphane.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
On a pas mal de sujets au programme. On va revenir avec vous Stéphane sur la galère du logement étudiant qui vous concerne, vous en tant qu'étudiant qui nous regardez peut-être, ou peut-être vous en tant que parent d'étudiant, de potentiel étudiant. Ça va vous coûter cher, mais on a peut-être quelques solutions pour vous. Mais avant ça, on va revenir sur quelques informations qu'il faut retenir, notamment Amazon à 2000 milliards. Est-ce que Amazon vaudra plus cher que Nvidia, un de ces quatre, Félix?
Mais Amazon vaut déjà plus cher que Nvidia. En valeur absolue, non, parce que Nvidia, c'est 3000 milliards, Amazon, 2000 milliards. Il n'y a pas de bulle, surtout, rassurez-vous, Lorraine. En valeur absolue, c'est moins cher, mais comment on fait pour s'en sortir quand les ratios de valorisation de la tech, des 7 magnifiques, pètent complètement les plombs? Parce qu'on parle de ratio PER à plus de 50, à 70 fois, c'est-à-dire que vous achetez $70 pour avoir $1 de résultat, globalement. Ça veut dire que vous avez 70 ans devant vous pour refaire votre investissement. Chacun a le temps qu'il veut. Réponse, comment faire le tri avec en fait la croissance? Il y a un ratio qui est moins utilisé par les investisseurs à court terme, mais plus par les values, c'est le PEG. C'est-à-dire que vous comparez le bénéfice à la croissance des bénéfices. Donc si vous divisez votre rapport PER par votre taux de croissance G, growth en anglais, eh bien vous pouvez un petit peu estimer globalement combien vous êtes prêt à acheter la croissance future de l'entreprise. Et à ce petit jeu-là, Nvidia est pas si chère. Elle a un ratio PEG à 1,5. On dit qu'un ratio est bien quand c'est en dessous de 1, évidemment. Au-dessus de 1,5, c'est un petit peu trop cher. Mais si on compare à ses pairs, et quand on regarde un échantillon, faut toujours regarder les pairs, vous avez Tesla qui a 3,7, Amazon à 2,1, Apple à 2,3, Microsoft à 2,3. Finalement, Nvidia, c'est celle qui a le plus de croissance. Donc évidemment, plus personne ne regarde combien elle vaut véritablement. tant qu'il y a de la croissance. C'est pareil pour Alphabet, là aussi un ratio PEG à 1,6. Donc finalement, on peut mettre un petit peu de vision value pour s'y retrouver dans ces sociétés qui, malheureusement, tirent plus de 50% de la cote américaine.
Voilà, oubliez les ratios classiques, fini le PER, il faut vous concentrer sur le Price Earning to Growth, PEG. Bon, c'est intéressant, ça nous emmène, ça nous fait rester plutôt du côté de Wall Street, hein, qui se porte quand même pas mal. Alors, à coup d'IA et à coup de coupe fin, qu'est-ce que ça vous inspire sur les prochains jours ou les prochaines semaines? Qu'est-ce qui reste sous la pédale?
J'espère qu'il en reste encore sur la pédale. À chaque fois, à chaque publication trimestrielle, je me dis, mais ils sont trop forts, comment ils font? Ces Américains, ça se regarde assez facilement. Hein. Si vous regardez les liquidités qui restent aux ménages américains, il en reste encore sous le coude. On peut encore consommer. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que si on regarde les sociétés qui ont tiré le Nasdaq et le S&P 500, Nasdaq 100, S&P 500, donc d'un côté 100 sociétés dans l'indice, de l'autre 500 sociétés dans l'indice, il y a 10 sociétés qui décident de tout depuis le 1er janvier. Vous les connaissez, les 7 magnifique, auquel on peut rajouter Broadcom, un peu tech, Costco. Alors là, on a de la grande distribution. Ça vaut 53 fois le résultat net. Hein. On attend que Carrefour, ça fasse pareil. Et vous avez aussi une société, et pas loin, des sociétés comme PepsiCo ou comme Procter & Gamble. Le gros problème, c'est que les sociétés qui surpondèrent, c'est celles qui sont liées à l'intelligence artificielle ou, et on l'a vu avec Eli Lilly ou Novo Nordisk en Europe, ou au GLP, hein, au coup, enfin, médicaments anti-obésité. Mais heureusement, les médicaments anti-obésité, ça concerne pas tout le monde. Et aujourd'hui, l'IA, ça concerne pas tout le monde non plus, dans le sens où même si les cas d'usage vont arriver, aujourd'hui, si on nous enlève l'IA et les coupes fins, ça va pas changer ça va pas arrêter la terre de tourner. Et donc c'est plus compliqué quand on se dit que les records de Wall Street sont tirés par des choses qui n'existaient pas il y a 18 mois. Donc c'est très fort sur la croissance, mais en fait ça fausse complètement la vision globale du marché. Quand les gens vous disent moi j'investis dans un ETF Nasdaq ou dans un ETF S&P 500, en fait ils investissent à plus de 50% dans 10 sociétés. Et la surpondération, c'est l'arbre qui cache la forêt, et on ne sait absolument pas comment on se porte les autres centaines de sociétés dans l'indice quand il y en a 10 qui se portent très bien. Et le problème, c'est le risque de retour. Le jour où Nvidia fait un profit warning, où le GLP1 n'a pas son autorisation de mise sur le marché finalement sur un nouveau dérivé, là ça risque de faire très 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 mal à la cote US.
Peut-être qu'un des relais de croissance du GLP1, ce sera la maladie, les médicaments contre la maladie d'Alzheimer. On parlait d'Eli Lilly qui vient d'obtenir l'approbation de la FDA pour un médicament contre Alzheimer. Et autre info qui concerne Eli Lilly et Novo Nordisk, ce sont leurs prix qui sont déraisonnablement élevés. C'est ce que disait Joe Biden il y a quelques jours.
Mais il n'est pas en campagne, c'est normal.
Oui, c'est cela. On va revenir chez nous sur nos terrains à nous français avec vous, Stéphane. On va parler d'un sujet qui concerne nombre de nos auditeurs, et c'est aussi pour ça qu'on s'arrête dessus. Ce sont les logements étudiants. Alors oui, on rentre dans l'été, donc certains d'entre vous sont en train de réfléchir où vous allez vous loger pour commencer ou continuer vos études en septembre. Et puis si vous êtes parents, eh bien vous êtes peut-être concerné par la nécessité d'acheter un appartement pour votre enfant, évidemment, si vous le pouvez. Stéphane, petit topo.
Oui, parce que la rentrée de septembre sera apocalyptique, hein, n'hésitons pas à le dire, pour trouver un studio. Donc, acheter peut-être un logement pour loger votre enfant étudiant sera votre seul choix, en tout cas un choix qui pourra vous permettre de ne pas louper un début d'année ou effectivement avoir de très très grosses difficultés pour trouver une location. Alors, pourquoi l'offre est en baisse? On le sait, on l'a dit, on le dit à longueur d'année, l'atomisation fiscale, la réglementation, l'interdiction des passoires, les primo-accédants qui n'ont pas primo-accédé et donc qui n'ont pas libéré leur petit logement, tout ça fait qu'effectivement l'offre s'écroule. Il y a un article du Monde il y a quelques jours qui était très intéressant avec des chiffres quand même assez parlants. À Lyon, on est à moins 28%. À Montpellier et à Lille, moins 33%. À Bordeaux, moins 38%.
Et La Palme.
Et Paris, La Palme, moins 47% d'offres. Donc autant dire la moitié, même se loger dans une autre enquête nous dit moins 74%. Donc on est face effectivement à un écroulement du marché. Donc alors ce serait déjà grave en soi, mais en plus on a une explosion de la demande, puisque il y a plus d'étudiants déjà en France. Hein,
c'est plus 15% en 10 ans.
En 10 ans on a gagné 15% d'étudiants en plus. Et puis, on a aussi la magie de Parcoursup. puisque effectivement, enfin tout le monde le sait, enfin tous ceux qui ont des enfants étudiants peuvent constater que parfois, on vous envoie faire votre fac à l'autre bout de la France, puisque la notion de secteur est une des composantes de Parcoursup, mais c'est pas une composante essentielle. Donc vous pouvez vous retrouver en habitant à Lyon avec votre enfant à Strasbourg ou à Paris. Donc tout ça rajoute de la tension sur un marché qui est déjà en pénurie. Effectivement, si vos enfants sont appelés à faire des études sur un cycle supérieur au moins de 3 ou 5 ans, pourquoi pas effectivement acheter. De toute façon, encore une fois, vous n'aurez peut-être pas le choix du tout. Donc pourquoi ne pas acheter effectivement, parce que de toute façon, payer 500 ou 600 euros de loyer pendant 3 ou 5 ans, ça fait quand même beaucoup d'argent. Voilà, sur 5 ans, ça fait 30 000 euros quand même de payer à fond perdu. Donc pourquoi pas acheter. Dans les villes étudiantes, globalement, Nantes, Rennes, etc., on est sur des prix autour de entre 3 500 et 4 000. À Bordeaux, à Marseille, on est autour de 4 000. À Lyon, un petit peu plus, on est à 4 500, 4 800. Mais globalement, sur ces villes-là, en 20 mètres carrés, vous pouvez en trouver à moins de 100 000 euros. Donc 100 000 euros sur 20-25 ans, ça vous donne une charge de remboursement autour de 550-600 euros. Donc c'est à peu près l'équivalent d'un loyer. Donc pourquoi pas. Alors attention, bien sûr, vous avez des frais en plus, vous avez la taxe foncière, la part propriétaire sur les travaux. Donc il y a des frais un petit peu plus, mais au moins vous capitalisez plutôt que de payer des loyers à fond perdu, effectivement. Et donc bon, voilà, ça peut être un intérêt. Au moins vous maîtrisez votre sort et vous maîtrisez le logement pour votre enfant. À noter également que vous pouvez vous intéresser aux passoires thermiques, notamment, parce que le marché est collé, il y a plein de secteurs où les passoires ont beaucoup de mal à se vendre.
Vous voulez mettre vos enfants dans une passoire thermique?
Oui, parce que, alors, si vous achetez à la casse, bien évidemment, si vous achetez à un prix nettement décoté, ça peut être un intérêt, parce que passoire thermique, vous n'aurez plus le droit de les louer, mais vous avez le droit de les utiliser pour vous. Puis vous savez, à Paris, on a 90% des derniers étages d'immeubles haussmanniens, chambres de bonne, qui sont des passoires thermiques. Et là, c'est un peu inextricable, notamment avec les toits zinc, etc. Donc, ce ne sont pas des taudis. Puis, il vaut mieux une passoire que de dormir dans sa voiture ou au camping. Donc, pourquoi pas, si vous avez des petits moyens, miser sur des passoires thermiques. Pourquoi pas également, si vous avez de tout petits moyens, que si vraiment vous avez un petit budget, viser les 8,90 m.
C'est juste en dessous.
En dessous des 9 mètres, puisque, comme vous le savez, on n'a pas le droit de louer des surfaces inférieures à 9 mètres carrés, mais on a le droit là aussi de les utiliser. Donc pourquoi pas, si vous avez un petit budget à 8,90 m, c'est là, même à Paris, on trouve des biens à 50-60 000 euros. Donc là, c'est très nettement inférieur à un loyer. Donc même pour des gens qui ont de petits moyens, c'est possible, en sacrifiant bien entendu des surfaces, et donc de faire d'une opération contrainte, en quelque sorte, une opération financière correcte. Alors il faut voir l'opération en deux temps, bien entendu. Première époque, vous économisez des loyers pour votre enfant étudiant pendant 3-5 ans. Si vous avez plusieurs enfants qui se succèdent dans le studio, voilà, c'est parfait. Et lorsque vos enfants ont grandi et ne sont plus étudiants, à ce moment-là, vous mettez en location ce bien. C'est déjà meublé, donc vous faites du meublé plutôt à l'amortissement. De cette façon, vous équilibrez vos comptes, vous faites de l'autofinancement, et donc c'est pas mal du tout. En meublé à l'amortissement, vous annulez l'impôt quand même sur de longues périodes. Votre emprunt, à ce moment-là, vous pourrez déduire les intérêts d'emprunt lorsque ce ne seront plus vos enfants qui l'utiliseront. Donc il y a quand même pas mal d'avantages à investir sur un studio plutôt que de subir, en l'occurrence, la pénurie extraordinaire auquel on va avoir à faire face en septembre, et encore pour de longue durée. Juste un chiffre pour conclure, on a quand même en France une enquête montrée en France que 18% des étudiants renoncent à leurs études pour un problème de logement en France en 2024. C'est quand même désolant. Donc voilà, pour ceux qui ont un petit peu de moyens, ou même de petits moyens, pensez à ça, ça sera peut-être de toute façon la seule opportunité que vous aurez pour loger vos enfants étudiants.
Absolument, vous avez parlé de Parcoursup, mais on pense aussi aux étudiants en médecine qui se retrouvent comme ça répartis sur le territoire français en fonction de leur choix, et qui à quelques années encore plus tard, quand on rentre en internat, c'est quoi, 23, 24 ans ?
Oui.
On doit se poser la question. Félix, vous qui êtes père et investisseur.
Non mais c'est intéressant ce que dit Stéphane. Il parlait de la baisse de l'offre à Lyon, à Bordeaux, à Montpellier, à Paris. comme c'est étrange, quatre villes avec le plafonnement des loyers.
Oui, c'est ça. C'est ça.
La loi Allure, elle empoisonne un peu les propriétaires qui veulent louer. Et parce que c'est quand même un marché d'offres et de demandes où il y a besoin de faire tourner les logements une fois par an si les, quand les étudiants partent en vacances, s'ils abandonnent leur logement. Donc il faut quand même permettre un peu de liquidité au marché. Quand vous êtes collé avec un plafond de loyer, c'est très compliqué. Stéphane parlait de la possibilité d'acheter des chambres de bonne. Alors là, ça concerne surtout Paris. Mais pour donner quelques chiffres, il y a 100 000 chambres de bonne à Paris d'environ 10 mètres carrés. Donc c'est un marché de 1 milliard d'euros qui est complètement abandonné parce que souvent, il est au 7e étage. Donc il est sans ascenseur. Il est assez sombre. Parfois, on est vraiment à cheval entre un roman de Zola et de Balzac. Mais il y a des très bonnes choses à faire. Acheter sous 9 mètres carrés, c'est-à-dire sous l'unité d'habitation, ça peut aussi se mettre dans la possibilité de faire un coût financier en rachetant un bout des parties communes pour remembrer et faire plus de 9 mètres carrés et revendre derrière. Il y a des coûts à faire vraiment sous 100 000 euros dans les 7e étages parisiens. Et en plus, si on n'a pas forcément, alors mes enfants n'ont pas encore l'âge de faire des études supérieures, mais en prévision pour dans 10, 15, 20 ans, c'est un investissement intéressant puisque les chambres de bonne à Paris, rive gauche, rive droite, sont situées près des grandes universités, des grandes classes prépa et constituent en fait un réservoir d'offres pour une demande qui est là. Stéphane l'a très bien dit.
Une demande qui est là, et vous avez entendu peut-être ce chiffre, le nombre d'étudiants en France qui a augmenté de 15% en 10 ans.
Oui, 2 800 000 étudiants, hein, c'est énorme. Hein.
Félix, il nous reste quelques secondes. Je voudrais qu'on fasse un rapide point sur le pétrole parce que actuellement, le WTI est à 82$, le Brent est autour de 86. Il remonte doucement. On prévoit qu'il devrait remonter jusqu'à la fin de l'année. Votre regard pour conclure.
Alors moi, je dis qu'il devrait remonter jusqu'à la fin de 2024, date à laquelle devrait intervenir peut-être la récession aux US, fin 2024, début 2025. Mais surtout, je voudrais qu'on revienne à janvier-février, période où on disait « Non, mais l'OPEP va pas réussir à augmenter les prix, la consommation de pétrole ralentit, les stocks sont trop élevés aux États-Unis. » Pas du tout. Les stocks de schiste, les États-Unis n'arrivent pas à augmenter leur rythme de production. C'est d'ailleurs assez inquiétant, parce que c'est le seul pétrole politiquement correct aujourd'hui.
Absolument.
Le contexte géopolitique au Moyen-Orient, il fait craindre vraiment des tensions entre Israël, le Liban, l'Iran, et donc il faut augmenter les prix. Et pour ne rien arranger, c'est la driving season qui commence aux États-Unis et en Europe avec les vacances, où on attend rien qu'aux États-Unis 60 millions d'automobilistes qui prennent leur voiture tous les jours pour faire plusieurs centaines de kilomètres pendant 2 mois. Donc tout ça va faire monter le WTI, le crude, le Brent. Et pour les investisseurs sur des énergies fossiles, il y a encore un potentiel de croissance d'ici la fin de l'année.
Vous nous parlez de la driving season, mais c'est aussi la season des ouragans, la saison des ouragans qui démarre plus tôt que prévu dans l'Atlantique. On surveille l'ouragan Beryl, hein, qui est le plus élevé sur l'échelle de Saffir-Simpson, à se former dans l'Atlantique à cette période de l'année. Merci à tous les deux pour votre regard sur l'actualité, que vous soyez parents, investisseurs ou étudiants. Stéphane Descartier, dirigeant de la SD Conseil et Formation, avec nous ce mercredi, et Félix Baron, le fondateur du Club des investisseurs indépendants. Vous restez avec nous, une petite publicité, et à suivre Nicolas Dose qui va aussi nous parler d'immobilier, qui va nous dire que malgré le désordre, les taux immobiliers continuent de baisser. Et puis après ça, on zoomera dans votre portefeuille, on parlera de la société Roberté avec l'équipe de Tipolo. A tout de suite.
Tout pour investir, Dose d'économie.
Nicolas Dose est parmi nous, peut-être avec une bonne nouvelle ce matin. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous nous parlez d'immobilier. Bonne nouvelle pour vous si vous souhaitez emprunter pour acheter un logement, peut-être acheter un studio, comme vient de nous le dire Stéphane Descartier. Les taux restent orientés à la baisse selon plusieurs courtiers. Alors, où en est-on ?
3,8% hors assurance sur 20 ans, ça c'est un chiffre empruntis qui est notamment cité dans l'Opinion ce matin, mais c'est à peu près la même tendance chez tout le monde. Donc ça veut dire que la tendance baissière continue malgré la remontée des taux souverains. Le taux long par excellence, c'est le taux d'emprunt de la France. Et généralement, le crédit immo. Et généralement, le crédit immobilier finit par suivre peu ou prou, alors pas de manière complètement symétrique,
oui,
mais peu ou prou la tendance des taux longs. Donc pour l'instant, en tout cas, la répercussion des mouvements sur les taux depuis l'annonce de la dissolution ne se voit pas dans les taux de crédit immobilier. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis même à l'inverse, c'est une supposition. Peut-être que le flou politique participe à cette baisse de taux. Le taux immobilier, on sait, ça reste un produit d'appel pour les banques. Comme après l'annonce de la dissolution, les acquéreurs ont fichu le camp, le fait de faire un petit mouvement de baisse sur les taux permet de battre le rappel pour les banques et d'essayer de faire revenir les acquéreurs, par exemple. Ça peut être un élément d'explication. Bon, enfin, l'idée principale, c'est quand même qu'on est sur une tendance baissière qui, pour l'instant, n'est pas cassée. Pour l'instant.
Oyez, oyez, potentiels acheteurs. Bon, ça veut dire qu'on peut compter sur une poursuite de la baisse du prix du crédit, selon vous ?
Je suis plus capable de vous répondre désormais. C'est trop flou, justement. Alors, je vous aurais dit, oui, on est vraiment sur une tendance à la baisse, comme pour les prix de l'énergie, où on est sur une tendance à la baisse, assez solide, d'ailleurs. Là, sur le moyen terme, je ne peux absolument pas vous dire. Si on a une... Il faut imaginer, le 8, 9, 10, 11 juillet, on a tout d'un coup une forte remontée des taux souverains. Une forte. Là, il y a un moment, là, la baisse des taux va s'arrêter, et la remontée des taux va d'ailleurs s'engager. En tout cas, pour l'instant, on est sur cette tendance baissière, et la Banque de France y croit à cette tendance baissière, puisqu'il y a trois jours, elle a pour la première fois en trois ans baissé le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux maximum. C'est le taux plafond auquel une banque, qu'une banque ne peut pas dépasser pour prêter de l'argent. Dans ce taux d'usure, c'est une forme de taux TTC, vous n'avez pas le droit d'aller au-dessus. Il inclut le taux de crédit hors assurance, il inclut l'assurance emprunteur et il inclut les frais de dossier. Et donc, bon, il reste élevé. Hein. Sur 20 ans, on reste à 6,19, mais on a perdu 23 points de base. C'est la première baisse en 3 ans. Ça veut dire que la Banque de France a plutôt foi dans l'idée qu'on est sur un repli des taux d'emprunt à l'habitant. Maintenant, on oublie l'idée qu'on revient aux années folles 2020-2022, avec des taux qui, lorsqu'on avait un excellent dossier, pouvaient tomber à 0,8-0,5. Bon, il y a eu quelques cas où les gars ont emprunté à zéro, ce qui est juste, c'était un monde pas normal. Parce que quand même, à Sintra, au Portugal, à l'occasion de la réunion annuelle de la BCE, Christine Lagarde a quand même envoyé le message qu'on ne pouvait pas dire que la guerre contre l'inflation était gagnée. Ça veut dire, en sous-texte, ne vous attendez pas à ce que la Banque Centrale Européenne réduise massivement ses taux à plusieurs reprises d'ici la fin de l'année. Or, je le répéterai toujours, le taux directeur, les taux directeurs, il y a le taux de dépôt et le taux de refis de la Banque Centrale Européenne, ça fixe le prix de l'argent, ça fixe le loyer de l'argent. C'est donc le driver majeur pour le crédit immobilier.
Les banquiers centraux qui répètent qu'il leur faut plus de temps pour s'engager. C'est comme une relation amoureuse. Bon, si les taux baissent et que le marché immobilier continue de se redresser, ça veut aussi peut-être dire que les prix, eux, vont cesser de baisser, voire même remonter.
Alors, c'est le problème. Si tout d'un coup la demande est de plus en plus solvable, que l'acquéreur est de retour, évidemment, on risque d'avoir un arrêt de la baisse des prix, voire une là, c'est plutôt stabilisation. On pourrait même avoir une remontée des prix. C'est l'histoire centrale de notre économie, ça. L'histoire des prix de l'immobilier beaucoup, beaucoup, beaucoup trop élevés. La vraie ponction dans le pouvoir d'achat. Il y a eu de l'inflation alimentaire, mais c'est l'immobilier qui vient vraiment ponctionner le pouvoir d'achat. Et c'est encore une fois, et c'est là où c'est un sujet qui dépasse l'économie, parce que c'est encore une fois l'angle mort de l'offre politique, y compris dans la campagne que nous vivons. Il n'y a rien sur le logement. Alors d'un côté, on sait qu'en France, on a un problème de... Si on reprend la thématique du pouvoir d'achat, on a un problème de salaire net. Car le salaire net, c'est le salaire après la montagne de prélèvements obligatoires qu'on prélève dessus sur le travail pour payer la protection sociale. Et on a un autre problème de pouvoir d'achat qui sont les sommes énormes consacrées par les ménages français pour se loger tous les mois. Il y a un moment, il faut se demander pourquoi la pierre est deux fois moins chère à Berlin qu'à Paris. Il y a un moment, il faut se demander s'il faut continuer à répéter les mêmes erreurs qui font qu'on en est arrivé là. C'est-à-dire se demander s'il faut continuer à soutenir systématiquement la demande au détriment de l'offre, s'il faut continuer à empiler des aides à l'achat, comme le prêt à taux zéro, s'il faut avoir systématiquement dans la construction 100% de logements accessibles aux handicapés. Et on se rend compte qu'avec ces erreurs-là, eh bien, on a totalement sous-estimé, voire oublié la question centrale, c'est quelle est la disponibilité d'habitations, quel est le nombre d'habitations disponibles. Le problème, c'est qu'il va falloir se pencher fissa sur le sujet. Parce que là, on a eu des chiffres de la construction de maisons individuelles neuves. La Fédération bancaire française a compté 10 000 emplois perdus en 18 mois. 10 000 emplois perdus. Et Altares, sur un an, a observé dans le secteur une hausse des faillites de 36%. Donc encore une fois, c'est l'angle mort politique. Et encore une fois, il va falloir s'y attaquer, mais il serait temps.
Voilà, malgré le désordre, pour le dire simplement, les taux immobiliers continuent de baisser. Pour combien de temps ? Merci beaucoup Nicolas Dos. Cette séquence t'a retrouvée en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et puis si vous nous suivez sur YouTube, la séquence de Nicolas est disponible. Il y a une zone pour commenter, vous aussi participer au débat ou à la réflexion. On va s'intéresser maintenant à votre portefeuille. On va zoomer sur une valeur avec l'équipe Tipolo.
Tout pour investir en portefeuille.
Et notre gérant du jour, c'est Xavier Milvaux. Bonjour, cher Xavier.
Bonjour Lorraine.
On est avec vous pour faire le point sur une entreprise qu'on aime suivre dans Tout pour investir, c'est Robertet. Avec vous, on va parler du marché des matières aromatiques et naturelles. Vous nous emmenez du côté de Grasse. Rapide portrait de cette entreprise, s'il vous plaît.
Absolument. Donc Robertet, c'est effectivement un des grands leaders mondiaux du marché des matières aromatiques naturelles. Alors, son activité est organisée en 4 divisions. On a les arômes alimentaires, ça fait 36% du chiffre d'affaires. On a les compositions de parfumerie pour 38% du chiffre d'affaires. Et on a enfin les matières premières naturelles pour un peu plus de 23% du chiffre d'affaires. Il y a aussi une division dans les principes actifs. Alors, c'est encore petit, ça fait 3% du chiffre d'affaires, mais ça se développe plutôt bien.
Bon, on aime bien parler de sociétés familiales dans cette émission. On aime suivre les petites et moyennes valeurs françaises. Vous tapez dans le mille, si je puis dire, en nous parlant de Robertet ce matin.
Oui, effectivement, Robertet, c'est avant tout une très belle histoire de famille. La famille Maubert, hein, qui gère la société depuis 5 générations. Elle possède toujours plus du tiers du capital et près des 2/3 des droits de vote. Mais au-delà de ça, c'est une entreprise industrielle, bien sûr, qui maîtrise de bout en bout la chaîne de valeur. On parle ici de la sécurisation de l'approvisionnement des matières premières jusqu'aux techniques industrielles plutôt avancées. Hein. Elle exploite une 30aine de centres de production partout dans le monde pour assurer la disponibilité des produits à ses clients qui sont souvent mondiaux. Justement, son activité à l'international, ça représente 82% de son chiffre d'affaires. Et fait important également, elle se concentre uniquement sur des produits à forte valeur ajoutée. Alors, elle exploite quand même plus de 1700 matières premières naturelles. Et ça, il faut savoir que c'est beaucoup plus que la plupart des concurrents. Et ces matières premières naturelles, eh bien, elles sont souvent rares. Donc, ça donne à Robertet de bons avantages concurrentiels. Ça lui permet aussi de conserver de très bons niveaux de rentabilité, hein, évidemment, satisfaisant pour autofinancer sa croissance. Mais surtout, comme beaucoup de sociétés familiales, Robertet est géré de manière prudente. Les développements, pour autant, ben, je dirais qu'ils restent volontaires. Hein, on le constate depuis ces dernières années avec des montants d'investissement qui se révèlent importants, notamment pour augmenter les capacités des usines et servir la croissance. Et ça devrait perturber. C'est moi qui suis perturbé. Il faut savoir aussi que des opérations de croissance externe viennent régulièrement compléter le dispositif industriel. Ou la gamme de produits. Ça a été le cas récemment, hein, avec de belles acquisitions. Il y en a une en Grande-Bretagne, en Espagne, également en Inde. Et ça vient apporter d'intéressants compléments de gamme.
Bon, vous nous parlez d'un secteur qui est le secteur des ingrédients naturels. Est-ce que c'est un secteur qui est toujours dynamique et qui va le rester dans les prochaines années ?
Eh bien, on le pense, effectivement, c'est un des secteurs, le secteur des ingrédients qui a toujours été en croissance. Hein. La dynamique se poursuit, on est sur un rythme autour de 4-5% de croissance par an. Il faut savoir que Robertet fait plutôt mieux en gagnant progressivement des parts de marché. On pense pas que la tendance risque de s'infléchir, hein, quel que soit le contexte. C'est un peu un secteur tout-terrain, on a toujours besoin de matières premières naturelles, quelle que soit la crise ou pas. Tout le monde privilégie aujourd'hui le naturel par rapport au synthétique. Alors, pour des raisons qui vont des allégations santé à des aspects marketing, en passant évidemment par les considérations écologiques. Hein. Le secteur est assez concentré. Il est entre les mains de quelques grands acteurs dans le monde. Il y a aussi plein de petits acteurs, mais globalement, le gros du marché, c'est plein de grands acteurs, c'est quelques grands acteurs dans le monde. Et cette industrie ne fait et ne fera probablement que croître à mesure que les ressources qui sont, elles, rares et plutôt fragiles, eh bien, doivent être partagées. Hein.
Les quelques grands acteurs concurrents, on va en parler dans quelques secondes, mais avant ça, pour finir ce portrait, quelques points sur les chiffres les plus chauds pour illustrer Robertet.
Alors, les derniers chiffres, c'est déjà un peu vieux, c'est 2023. La société a communiqué une activité de plus de 720 millions d'euros. Ça faisait ressortir une croissance assez modérée, mais ça faisait suite aussi à une année précédente en très forte croissance à deux chiffres. La rentabilité se tient toujours bien, à des bons niveaux, et la bonne gestion, notamment des stocks, a permis un bon niveau de génération de flux de trésorerie. pour poursuivre évidemment le financement de la croissance. Hein. Pour les perspectives, l'objectif minimal des dirigeants, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2030. Donc ça fait 5,5% de croissance, ça c'est le minimum, chaque année, assorti d'une marge qui devrait toujours monter un petit peu.
Bon, un cours de bourse qui ne décolle pas non plus énormément, mais avant ça, revenons sur, pour finir l'environnement, sur les autres gros acteurs du secteur et peut-être sur le plan capitalistique, ce que vous avez à nous dire.
Absolument. Il faut savoir que Firmenich et Givaudan, donc ces deux grands acteurs du secteur, ils ont acquis respectivement 22 et 5% du capital. Ça, c'était du capital de Robertet, donc. Ça, c'était en 2019 et début 2020. Les transactions se sont faites à 683 euros. Donc, c'est à peu près 20% en dessous des cours actuels. Alors, ces 20%, bien, c'est moins que la capitalisation de la croissance depuis que ces transactions ont eu lieu, déjà. Et deuxièmement, si ces deux entreprises sont entrées au capital de Robertet, c'est probablement pas pour gagner 20%. C'est probablement parce qu'ils pensent que ça vaut beaucoup plus. Mais surtout, ces incursions, il faut savoir qu'elles ont créé un véritable électrochoc hein, au sein de la famille fondatrice, qui est résolue à rester indépendante. Il faut savoir cependant que certains membres de la famille ont tout de même souhaité obtenir de la liquidité. Du coup, la société a lancé une offre publique d'achat simplifiée. C'était en juillet 2022, donc il y a tout juste 2 ans. Et ça s'est fait au cours de 885 euros. Donc ça, c'est une autre valeur de référence intéressante. Hein. C'est 7% au-dessus du cours actuel. Les membres familiaux qui restent sont extrêmement impliqués dans la gestion opérationnelle du groupe et revendiquent bien sûr l'intérêt de rester indépendant. Effectivement, en étant un des plus grands acteurs du secteur parmi les petits, donc avec de vraies positions sur les marchés clés, hein, et également le plus petit finalement parmi les grands acteurs, ce qui lui permet au passage d'être plus dynamique et réactif, eh bien ça fait de Robertet un actif unique, qui serait probablement dommage de diluer. Et qui dit actif unique dit grande valeur. Ça, tout le monde l'a bien compris, la famille, mais aussi Firmenich et Givaudan.
On finit rapidement. D'ailleurs, on est suivi en direct. Hervé me fait la réflexion sur le cours de bourse. Le cours de bourse qui ne décolle pas plus. Comment vous l'expliquez pour conclure, Xavier ?
Vous avez raison. Et justement, c'est bien cette volonté d'indépendance dont je parlais à l'instant qui a fait disparaître hein, la prime spéculative. Et le cours est effectivement au niveau d'il y a 4 ou 5 ans. Le marché, en fait, a totalement abandonné l'idée que, en tout cas à court terme, que la société se fera racheter. Ce qui a fait sortir certains investisseurs. Robertet se traite actuellement à peu près 25% en dessous de ses plus hauts touchés plusieurs fois en 2020 et 2021. Mais il faut savoir que les agrégats d'activité, eux, donc les résultats, ils sont largement au-dessus des plus hauts, largement au-dessus de ces niveaux d'il y a 4-5 ans. Le secteur dans son ensemble, il est plutôt cher parce qu'il offre une bonne visibilité. Mais franchement, à ce cours, le titre Robertet est revenu à des niveaux raisonnables. Donc Robertet, c'est donc en synthèse une valeur de qualité, un peu tout terrain, on l'a dit, pour le long terme, qui est revenu sur une valorisation peu exigeante par rapport au secteur et tout simplement par rapport à ses fondamentaux qui sont très sains.
Voilà, on s'occupe de votre portefeuille. On zoome sur certaines valeurs qui vous intéressent particulièrement. Merci Xavier Milvaux, gérant de portefeuille chez Tiepolo pour ce portrait de cette entreprise française. À suivre, on continue de s'occuper de votre portefeuille, de vos investissements ou de vos potentiels investissements. Vous êtes nombreux à nous demander des recommandations de plateformes d'investissement. Alors, on n'est pas conseiller en investissement, mais on peut vous donner des conseils sur comment bien choisir votre plateforme. C'est à suivre avec Grégory Gulin.
Tout pour investir, le coach.
Notre coach aujourd'hui, c'est Grégory Gulin. Bonjour Grégory.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le fondateur de la bourse Make It Easy. Vous êtes notre mentor aujourd'hui pour nous aider dans le vaste sujet du crowdfunding, crowdlending. Vous allez nous aider à bien choisir la plateforme d'investissement dans laquelle on a envie de mettre des billes. Et pour cela, vous avez une petite méthodologie que vous allez partager avec nous. J'en profite pour saluer un de nos auditeurs, Patrick, qui nous a écrit en nous demandant quels sont les sites, les plateformes qui permettent des placements dans des startups. Et bien justement, on va en parler. Et nous demande s'il existe un organisme de certification pour identifier les bonnes des mauvaises plateformes. Est-ce que vous avez une réponse pour commencer ?
Alors, à ma connaissance, il n'en existe pas. Merci Lorraine, en tout cas, de m'inviter dans votre émission. À ma connaissance, il n'en existe pas. Et c'est bien là, entre guillemets, le problème. Mais c'est la même chose aussi pour les plateformes d'investissement, pour des investissements en bourse, je dirais. Parce qu'il existe plein de plateformes différentes pour du crowd lending, crowdfunding également. Donc, on se pose vraiment ces questions. Il y a pas mal de questions à se poser. Et donc, moi, j'aime bien toujours partir sur quelle est la société. Donc, qui a fondé la société? Quels sont les actionnaires? Est-ce que les actionnaires sont toujours majoritaires? Est-ce que les gens qui ont fondé la société il y a quelques années y travaillent toujours? Est-ce qu'il y a des procédures même judiciaires à l'encontre de l'un ou l'autre associé? On ne sait jamais. Donc, vraiment, prendre le temps, en fait, de connaître la plateforme d'investissement. C'est comme quand vous choisissez une banque, Lorraine, ben, vous avez prendre le temps de vous renseigner peut-être sur la banque, dans quel pays elle est, quel est le nombre d'actifs qu'elle a sous gestion, le nombre de clients, le nombre de collaborateurs. Ben, c'est la même chose. C'est important de prendre le temps de mieux connaître, justement, la société avant même d'aller voir les investissements sous-jacents.
Justement, les investissements sous-jacents, c'est connaître les clients de cette plateforme, parce qu'on parle de plateforme d'investissement en crowd et en crowdfunding et crowdlending. Le type de clients que ces plateformes ont, est-ce qu'ils sont en Europe, est-ce qu'ils sont dans le monde entier, est-ce que c'est des entreprises avec des vrais pros aux manettes? Ça aussi, c'est des questions qu'on peut poser à la plateforme.
Ben en fait, moi, j'ai établi en fait une liste de 50, 60 questions à poser à ce type de plateforme. Bon, faut savoir que quand ces plateformes reçoivent ce type d'email de ma part, elles sont pas spécialement contentes parce que ça demande énormément de temps de répondre à cela. Mais ça en dit aussi sur la volonté de ces plateformes-là d'apporter de la transparence, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que, bien entendu, c'est important de se poser la question, qui sont le type de clients? Par exemple, il y a plein de plateformes en France, comme je pense à Razer, Studigo, Lita et autres. Et par exemple, moi étant en Belgique, je vois pas mal de Belges qui se posent des questions pour investir au travers de ces plateformes-là. Oui, mais il y a un point important, c'est la fiscalité. Absolument. Parce que, en fait, ce sont généralement des produits et des structures juridiques qui sont fiscalement adaptées justement à des clients résidents français, mais pas spécialement pour des Belges, des Luxembourgeois ou des Suisses. Et donc, c'est important, en fait, d'avoir une idée justement sur le type de clients et comment, en faisant la transition sur les projets justement, comment justement la société va sourcer des projets. Quand on voit que certaines plateformes analysent des milliers de projets, quel est vraiment le processus d'analyse des projets? Parce qu'on voit énormément, pour le moment, on voit énormément de projets immobiliers. C'est normal, c'est plus difficile d'emprunter via le canal traditionnel bancaire. Et donc, on voit pas mal de projets. Mais comment, justement, la société a mis en place un processus d'analyse des projets très clair, très solide, pour essayer de limiter le risque de défaut, justement, de l'emprunteur ou de la société qui cherche à lever des capitaux.
J'ai souvent une question qui me taraude quand je fais, entre guillemets, mon travail de journaliste et que je vais surfer un peu sur ces plateformes d'investissement. Je me demande souvent si les entreprises qui sont mises en avant par les algorithmes ou le marketing de ces plateformes, est-ce que ce sont des projets dans lesquels l'entreprise, investit particulièrement, si la plateforme met particulièrement des billes dedans? Est-ce que vous savez, est-ce que d'historique, vous avez des leçons à nous partager?
Oui, j'ai deux leçons par rapport à ça. Je vois effectivement que certaines plateformes, en fait, décident d'investir dans les projets, effectivement, mais pas dans tous les projets, parce que dans tous les projets, ça serait impossible. On voit certaines plateformes qui sortent 200, 300, 400, 500 projets par an, donc ça serait matériellement difficile. Donc là, il y a une vraie question de dire, bon, en fait, pourquoi la plateforme choisit tel projet ou tel projet? Ça, c'est un point important, mais donc ça existe. C'est pas la majorité d'après mon expérience, puisque j'ai contacté pas mal de plateformes ces derniers mois et qui me disaient justement que pour éviter, entre guillemets, le fait de devoir choisir justement entre des projets. Il se focalise principalement sur le processus d'analyse des projets. Quel est le processus de due diligence? Et donc ça, c'est important aussi de demander à la plateforme des exemples, quitte à signer un agrément de, enfin, un accord de non-divulgation d'informations, un NDA en anglais. Voilà, pour justement avoir un exemple de 5, 6, 10 pages justement d'analyse d'un projet. Mais certaines plateformes disent, ben non, en fait, on préfère justement s'arrêter à la mise en relation entre des projets et des investisseurs, à l'analyse de ces projets-là pour essayer qu'un maximum de projets soient de bonne qualité, parce que il en va de notre réputation. Après, un point extrêmement important, c'est que la majorité des plateformes ont vu le jour entre 2015 et maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2015 et maintenant, il n'y a pas eu une récession économique incroyable, il n'y a pas eu un énorme crash boursier de 40-50%. Mais par contre, c'est intéressant de remarquer, c'est que moi, je regarde tous les trois mois l'évolution des taux de défaut, notamment sur certaines plateformes style Tudigo, Lita ou autre. Et ben, on se rend compte que les taux de défaut commencent à augmenter. Il y a quelques mois, c'était aux alentours de 2-3%, et maintenant, on est aux 5-6%. Pourquoi? Parce que ces petites sociétés, ces petits, entre guillemets, projets, et ce n'est pas du tout péjoratif le mot petit, mais c'est en termes de taille, c'est simplement, ce sont souvent des sociétés qui ont des besoins de financement, qui ont du mal aussi à se financer via le canal bancaire traditionnel, et quand les taux d'intérêt augmentent fortement, peuvent avoir une charge d'intérêt tellement importante que cette charge d'intérêt met sous pression la société. Donc attention à cela également. Et je me permets quand même de faire un point, c'est qu'en tant qu'investisseur privé, c'est génial de se dire « Ok, on peut investir 500 000 euros dans plein de projets différents », mais c'est comme faire du stock picking en bourse. Il faut prendre le temps d'analyser la société, et le problème, c'est qu'il y a une sorte de surenchère, parce qu'on n'a que 24 heures, 48 heures pour pouvoir investir là-dedans, parce qu'il y a tellement d'argent, entre guillemets, dans le système. Donc ça pousse un petit peu, en fait, les investisseurs à ne pas analyser tel ou tel projet de telle ou telle plateforme, alors que dans un monde idéal, il faudrait prendre le temps d'analyser la plateforme, mais il faudrait aussi prendre le temps d'analyser les dizaines, les centaines de projets qui sortent chaque mois pour chaque plateforme, pour choisir quel est le sens d'investir dans tel projet immobilier A plutôt que le projet immobilier Z.
Les bons conseils de bon sens de notre coach Grégory Guillemin. Oui, le crowdfunding, le crowdlending, c'est comme du stock picking. Il faut faire ses devoirs et pas oublier de se diversifier aussi, si je vous entends correctement. Merci beaucoup, Grégory. Grégory, le fondateur de la bourse Make It Easy. Ses tutos, c'est aussi sur la bourse Make It Easy, sur vos site et vos réseaux, cher Grégory. C'est dans Tout pour investir tous les mois depuis le début de la saison. Merci pour votre temps et votre expertise partagée, Grégory Guillemin. Je vous renvoie évidemment à l'ensemble des contenus de Grégory disponibles sur Internet. Et je vous précise que le patron de SoWeFund, le patron de Tudigo sont régulièrement autour de ce plateau, à dispo pour répondre à vos questions, à celles que vous auriez sur leur processus d'analyse de projet ou encore sur des questions légales ou de gouvernance. Si vous en avez, vous n'hésitez pas. Vous m'écrivez sur LinkedIn, Lorraine Goumeau, ou vous nous écrivez à l'équipe sur l'adresse directe @bfmbusiness.fr, et puis on transmet vos questions et ces acteurs de l'économie viennent y répondre, en tout pour investir au service de votre argent et du fonctionnement des entreprises françaises et européennes. À suivre dans Tout pour investir, bien la pub. Juste après ça, on fera un point marché avec Antoine et on parlera d'immobilier, tiens, avec Marie-Cœur de Roy. On se concentrera sur la rénovation énergétique aujourd'hui et puis on parlera d'investissement dans les infrastructures de la rénovation, de la transition énergétique. Est-ce que c'est un placement d'avenir? On en parle avec un family office. À tout de suite dans l'émission.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui parle d'argent, qui s'occupe de votre capital, celui que vous avez déjà ou celui que vous cherchez à faire fructifier. On fait ça en direct tous les jours de 10h à midi sur BFM Business, à la radio, à la télé, mais aussi sur le web et aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez sur un autre fuseau horaire. Au programme de l'émission, comme tous les jours, l'immobilier. On va parler rénovation énergétique avec Marie Cœur de Roy et notre invitée. Rénovation énergétique et transition énergétique seront également au programme de notre question-réponse. On misera sur les infrastructures qui permettent cette transition énergétique. Est-elle, sont-elles un placement d'avenir ? Réponse de Souleymane Jean Galadima, le cofondateur du multifamily office Sapiens. Et puis au programme, il y a vous. Vous nous suivez en direct. Vous êtes assez nombreux à nous écrire depuis ce matin. Je vous lis notamment la réaction Frédéric qui nous demande si le sentiment d'être sous-payé n'est pas également un frein à la productivité en réaction à la chronique de Nicolas Dose. Eh bien, écoutez, cher Frédéric, on va articuler une réflexion sur ce sujet. Est-ce que le sentiment d'être sous-payé est également un frein à la productivité de notre pays et donc quelque part à l'augmentation du pouvoir d'achat ? À suivre, on va partir sur les marchés et faire le point avec Antoine Larigaudry sur la séance en cours côté CAC 40.
Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Cher Antoine, on vous retrouve depuis Euronext et le CAC aussi est de retour, mais il est de retour au-dessus des 7600 points. Pardon pour ce lancement lamentable.
Non, mais ne vous inquiétez pas. De toute manière, on est dans l'instabilité la plus grande hein, sur les marchés. Donc, il faut s'attendre aussi à des mouvements un petit peu brutaux. Enfin, là, ce n'est pas du brutal, mais on sent un brutal changement de sentiment hein, avec un CAC 40 qui gagne désormais effectivement 1%. On est de retour au-delà des 7600 points, 7614 avec une forte performance de l'ensemble du secteur technologique. Hein, l'Euronext Tech Leaders qui gagne 1,7%. On se rapproche des 2500 points d'ailleurs, un niveau technique intéressant. Plus 0,7% pour le DAX à Francfort, plus 1% pour l'Eurostoxx 50. Bref, tous les indicateurs sont au vert. À noter de fortes reprises sur pas mal de titres qui ont été un petit peu maltraités ces temps-ci. Et on le dit depuis des semaines, quand le marché repart à la hausse, les dossiers partis à la casse ont tendance à repartir plus que les autres. On appelle ça un bêta élevé hein, en termes techniques. Donc, Eurofins Scientifique en particulier gagne 3,2%. Et c'est le leader des progressions du CAC 40. On était à 45,62 €. L'ensemble du secteur bancaire aussi, avec Société Générale en tête, qui gagne 2,6% à 23,06 €. Téléperformance, va falloir faire le bilan hebdomadaire, mais enfin la hausse est quand même spectaculaire hein, sur ces derniers jours. Le titre gagne encore 2,2% à 109,40 €. Puis à noter dans la tech, un ST Micro qui gagne 2,39%, 37,97 €. Les dossiers à la casse qui sont repris là ces derniers temps. EuroAPI, hein, plus 3,7% à 2,65 €. À noter Vision Group aussi, leader du SBF 120, plus 4,6%, 139,40 €. À la baisse, pas grand chose à signaler. Unibail Rodamco Westfield qui recule de 0,19% à 75,04 €. Plus forte baisse du CAC, plus forte baisse du SBF 120. Casino, hein, moins 3,13%, 3,49 €. Atos aussi, moins 2,06 € à 0,89 €. Et puis Morel Épreuve, moins 2,34 € à 6,04 €. Le CAC plus 1, 7613 points. L'euro 1 dollar, 0,760 €. Lorraine.
On va parler de sentiments, de vent positif dans votre histoire financière.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Mais oui, vent positif sur les marchés, on peut le dire parce qu'il y a un certain nombre de vrais signes de détente à court terme. Listez-nous ces signes, cher Antoine.
Déjà, il faut dire que 50% de la tendance positive qu'on a ce matin est due à, franchement, des investisseurs américains beaucoup plus positifs ces derniers temps. On a vu... Et ça avait posé problème, une forte hausse des taux 10 ans du côté des États-Unis, du côté des 4,3 4,4%, donc ça a commencé à piquer. Et puis les choses se sont un petit peu calmées hier. Et ça a provoqué un retour sur le marché actions, un retour sur les actions américaines. Et on a assisté à une belle hausse du S&P 500 à plus 0,6%. Alors surtout, nouveau record historique au-delà des 5500 points, 5509 pour l'indice large de la bourse américaine. Le Nasdaq qui a bien performé aussi, plus 0,8%. Et puis, dites donc, Apple, nouveau plus haut historique. Tesla qui se redresse de 10% après avoir fait état de ventes qui étaient plus élevées que prévu hein, sur le deuxième trimestre. Pour vous dire, les intérêts de vente à découvert sur le titre Tesla, donc concrètement ce qu'on gagne en shortant l'action, ont atteint à plus bas de 3 ans. hier soir. Ça, c'est un signe. Et ça explique aussi la très forte hausse et la bonne progression du titre. On a des indicateurs de volatilité qui tombent sur des plus bas de 7 ans. Le VIX, notamment, hein, l'indice VIX, le baromètre de la peur, comme on l'appelle, du côté de la bourse américaine, il est tombé sous 12 points hier et c'était effectivement un plus bas de 7 ans. Donc, volatilité au tapis, Tesla qui devient difficilement shortable, Apple au plus haut historique. Ça vous rappelle pas un bon petit coup de « y a tout qui monte », un sentiment d'euphorie latent qui a traversé Wall Street il y a quelques années. On a l'impression d'un petit retour là, à court terme de ce bon vieux temps du côté de la bourse américaine. Alors évidemment, ça entraîne les indices européens dans le sillage. Ils ont un peu plus de mal à avancer parce que là aussi, le contexte obligataire reste quand même tendu. On a quand même eu une petite détente ce matin, notamment du côté de la dette française à 3 ans. On a vu le spread, l'écart de taux se resserrer avec l'Allemagne. Alors principalement, et on l'a dit depuis le début de la semaine, du fait d'une forte tension du côté du 10 ans allemand. Et ça, c'était un facteur assez extraordinaire. Et puis, au milieu de tout ça, vous l'avez vu, l'Euronext Tech Leaders, notre Nasdaq à nous, qui signe une très belle performance et qui surperforme largement le marché. Tout ça est à confirmer, bien entendu, parce qu'on reste dans un sentiment éminemment indécis avant le deuxième tour des législatives. Mais il semble que, pour l'instant, le premier étage de la fusée, c'était écarter les scénarios extrêmes, à savoir une majorité absolue, aussi bien pour l'Union de la gauche que pour le Rassemblement National. Donc ça, c'est de côté. Et puis voilà, un sentiment qui fait dire aux analystes que les choses vont peut-être se calmer et rentrer dans l'ordre avec un scrutin un petit peu plus favorable. En tout cas, c'est le sentiment qu'il y a en ce moment. Attention, on va se méfier parce qu'il y a pas mal d'indicateurs macroéconomiques de nature à faire changer brutalement la tendance, et notamment ces prochaines heures et ces prochains jours. L'emploi américain, on a l'emploi privé ADP, on a aussi des indicateurs de directeurs d'achat, les ISM services du côté des États-Unis, et puis le rapport américain sur l'emploi vendredi, bien sûr, qui scellera un petit peu la tendance.
Voilà, gros programme, gros calendrier économique dans les prochaines heures et les prochains jours, même si demain les États-Unis seront fermés. On va quand même avoir pas mal de choses à se raconter, je pense, mon cher Antoine. Merci pour cette histoire financière à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et je vous renvoie au début de l'émission avec Félix Baron des investisseurs, du Club des investisseurs indépendants. On se demandait justement comment se rassurer quand on voit que la bourse est totalement emmenée par une dizaine de sociétés côté États-Unis, entre les GAFAM, un peu de Broadcom, un peu d'Eli Lilly. Comment se repérer, comment continuer à... garder la tête froide quand les ratios classiques, les PER, pètent les plombs, pour reprendre l'expression de Félix. C'est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. C'était dans Tout pour votre argent. À suivre, il est l'heure de parler immobilier, il est l'heure de parler de rénovation énergétique. Bah oui, on peut pas dire que nos politiques en parlent beaucoup, alors nous, on en parle au moins dans cette émission. À tout de suite.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
La place de l'IMO et la place de la rénovation énergétique. Bonjour Marie-Cœur de Roy.
Bonjour Lorraine.
Notre invité aujourd'hui est Baudouin de la Varande. Bonjour Baudouin.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur d'ITAC, spécialiste de rénovation énergétique, et ça tombe bien parce que on peut pas dire qu'on en parle beaucoup dans le débat politique.
Non, on en parle même quasiment pas du tout. Et pourtant, il y a quand même quelques petites échéances. D'ailleurs, celle de cette semaine, 1er juillet, il me semble que c'était lundi, on nous avait promis un nouveau mode de calcul pour les petites surfaces, pour le DPE, parce qu'on se rendait compte que le mode de calcul initial les défavorisait grandement. Première question, Baudouin, est-ce que vraiment ce nouveau mode de calcul va permettre à tout un tas de petites surfaces de sortir de l'état de passoire thermique ?
Oui, je pense que ça va vraiment améliorer les choses. Nous, chez ITAC, on accompagne de nombreux clients dans leur projet de rénovation énergétique, et du coup, le DPE est assez central quand même pour nous. Et ce qu'on observe, c'est que pour de nombreux propriétaires de petits logements, les moins de 40 mètres carrés, voire même les moins de 20 mètres carrés, c'était très compliqué de sortir du statut de passoire. Donc, c'est pas magique, il va falloir quand même faire des travaux de rénovation énergétique, mais ça va quand même changer la donne, et ça va permettre à de nombreux logements de pouvoir passer cette fatidique lettre de F ou de E.
Et alors, je vous pose cette question-là parce que je vais rendre hommage à l'ancien patron de l'UNPI, Christophe Desmerson, avec qui je suis restée longuement hier au téléphone en visio. Il était dans un logement qui lui appartient, qu'il souhaite mettre à la location avec un diagnostiqueur. Il a réalisé, donc on est sur un petit logement de 28 mètres carrés. Il en a eu pour 35-40 000 euros de travaux. Il a refait l'isolation partout, des sols au plafond en passant par les murs. C'est une dépendance, donc ça ressemble à une petite maison. Et il a tout refait. Et au final, il est avec le diagnostiqueur. On est en visio, je raconte l'histoire parce qu'elle est intéressante. Il reste en G s'il maintient avec un radiateur. S'il maintient son chauffage au radiateur électrique classique, et un bon radiateur, hein, il reste en G. Il reste en G et il reste en G même d'après le nouveau mode de calcul sur les petites surfaces. Sa seule solution pour ne pas rester en G, c'est d'installer une pompe à chaleur et pour le coup, il passerait en D. En fait, avec le diagnostiqueur, on s'est amusé à faire fonctionner un petit logiciel. Ouais. Et s'il n'avait pas fait l'isolation, mais simplement installé une pompe à chaleur, il serait en E. En fait, il serait en E. C'est-à-dire que là, on se rend bien compte. Donc, il aurait le droit de louer pour 10 années supplémentaires. Donc, on se rend bien compte du peu d'influence de l'isolation par rapport au système de chauffage. C'est un peu contre-intuitif. Et puis, surtout pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont en mode travaux aujourd'hui, c'est compliqué de s'y retrouver, quoi.
Oui, effectivement, ça c'est un des problèmes dans la méthode actuelle du DPE, c'est que l'isolation n'est pas suffisamment prise en compte. En tout cas, la notion de confort qu'elle apporte et qui permet d'avoir un logement qui est plus agréable à vivre n'est pas suffisamment prise en compte. Ce qui donne envie de partir sur des solutions de type pompe à chaleur qui paraissent pour le coup être un peu magiques. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand même une pompe à chaleur dans un logement qui n'est pas du tout isolé, ce sera pas une bonne solution pour l'avenir. Donc il faut essayer de coupler les deux. J'aimerais bien répondre qu'il y a une solution magique, mais malheureusement.
Mais justement, c'était la discussion avec Christophe Desmerceaux, mais ça veut dire qu'en gros, typiquement là, il pourrait mettre à la location un logement pas isolé, mais avec une pompe à chaleur pour encore 10 années supplémentaires. Ouais. Alors que là, il a fait l'isolation. S'il laisse les radiateurs, il n'est pas louable en l'état. Et pour autant, son locataire aura des factures qui resteront élevées. Même avec une pompe à chaleur, s'il n'y a pas l'isolation, il continuera à chauffer l'extérieur. C'est ça l'idée, quoi.
Ouais, exactement. Mais c'est sûr qu'il y a. Alors, il y a encore des cas limites. En tout cas, nous, dans tous les clients qu'on accompagne, c'est quand même assez rare de tomber sur ce cas-là. Donc, je pense qu'il y a une disposition du logement qui doit faire qu'il est dans un cas assez pénalisant. Nous, quand même, dans la majorité, pour rassurer, dans la majorité des cas, en isolant et en jouant sur le système de chauffage, on arrive sur des logements qui peuvent arriver à C, à D et qui, du coup, pourront continuer à
être loués. Mais on est d'accord, Baudin, pour dire qu'il faut quand même faire dans la dentelle et que avant de se lancer dans les travaux, il faut quand même essayer d'auditer et de simuler tout un tas de travaux que je vais pouvoir, tout un tas de gestes que je vais pouvoir faire et leur impact sur ma note de DPE, parfois même au détriment de l'enjeu sur mes factures et sur l'écologie au sens large en fait.
Ah bah là, vous prêchez un convaincu, parce que c'est exactement nous, notre conviction chez ITAC. Hein. On accompagne, nous, les propriétaires qui souhaitent faire de la rénovation énergétique avec un audit énergétique. On les accompagne pendant les travaux pour sélectionner les bonnes entreprises et pour récupérer les aides de l'État. Donc on est vraiment persuadé que pour lancer des travaux sur de bons rails, il faut commencer par se faire accompagner pour justement éviter de faire des bêtises. Ça peut paraître simple, on aimerait bien que ce soit simple, la rénovation énergétique, ça arrangerait tout le monde. Malheureusement ça ne l'est pas et du coup il faut se faire accompagner.
Et c'est d'autant plus important, et je terminerai avec ma petite histoire avec Christophe Desmerceaux, que le diagnostiqueur qui l'accompagnait nous disait au téléphone, il me disait ce qui est terrible pour nous en tant que diagnostiqueur, c'est que derrière parfois quand on va retourner sur un logement qui a été avec des travaux importants et qu'on leur dit non, vous restez en G, finalement on devient responsable pour les propriétaires alors qu'on n'y est pas pour grand chose. Nous on ne fait que mesurer avec le mode de calcul qu'on nous a donné, le logiciel dont on a l'usage et qui parfois nous met dans une situation problématique à l'égard des propriétaires. Donc
attendez, parce que moi du coup j'ai une autre histoire à vous soumettre, on fait flèche de tout bois puisque vous êtes là Baudouin. Il y a Anthony qui m'a écrit un petit peu plus tôt sur LinkedIn, il habite une maison BBC.
Oui, bâtiment basse consommation.
Construite en 2020, sous la réglementation RT de 2012. Et ses voisins ont fait construire en 2023, sous la réglementation RE 2021. Bon. Ils ont tous fait le même constat. Les maisons consomment peu l'hiver en énergie, mais l'été, elles sont, je cite, invivables. Elles dépassent les 24 degrés à l'intérieur dès le mois de mars, alors que le chauffage est coupé en été. Et ils approchent les 27 degrés, alors qu'ils vivent littéralement, je le cite, dans le noir avec les volets fermés. Cet inconvénient majeur a obligé certains de ses voisins à investir dans une clim. Et lui, notre auditeur, Anthony, il a installé un rafraîchissement par le sol. Alors, l'économie réalisée l'hiver est totalement effacée par la consommation de l'été et rend donc les maisons tout à fait éloignés de leur but initial. Voilà, vous allez nous expliquer ça, Baudouin. Et en plus, l'idée du surcroît à la construction qui perd tout son sens. Et je précise qu'il habite dans le 44, hein, donc il n'est pas dans le sud, en PACA ou dans le nord de l'Espagne. Qu'est-ce qu'on peut répondre à notre auditeur ?
On peut répondre qu'effectivement, la prise en compte du confort d'été, donc le fait de pouvoir être dans un logement confortable en été, avec les canicules qui sont en plus de plus en plus fréquentes, ça a été longtemps un sujet complètement mis de côté dans la construction et dans la rénovation énergétique aussi d'ailleurs. Et donc, on a construit pendant longtemps des logements qui se révèlent être complètement des serres, donc des bouilloires thermiques, c'est le nouveau terme, qui font que dès qu'il y a un petit peu de soleil, on a l'impression de mourir de chaud. Il y a plein de solutions qui peuvent exister malgré tout pour améliorer.
La géothermie dont il parle cet auditeur, c'est génial, hein, ça. Hein. C'est quand même un truc, c'est vieux.
Le rafraîchissement
comme
par le sol.
Ouais, c'est ça. On va aller chercher. Ben, on va aller chercher la fraîcheur. Vous savez qu'il y a une fraîcheur constante dans nos sous-sols, et donc on va aller chercher la fraîcheur dans les sous-sols pour finalement bénéficier de cette fraîcheur-là et de cette température finalement qui ne bouge pas toute l'année. Donc c'est quand même assez et c'est précieux, et pour le coup c'est une solution très écologique.
Tout à fait. Alors ça, c'est une solution active, c'est-à-dire qu'on a mis en place un système qui permettait d'améliorer tout ça. Avant de penser à ces solutions, il faut penser aux solutions qui sont plutôt passives, et c'est ce que faisaient les personnes dans l'ancien temps, on va dire, il y a quelques dizaines d'années. C'est éviter que la chaleur rentre avant tout. Une fois qu'on a évité ça, on peut réfléchir à la manière de rafraîchir, mais du coup c'est mettre des volets sur ces fenêtres, tout simplement. C'est mettre de l'inertie dans le toit, donc réfléchir à l'isolation, à des murs qui soient lourds. Tout ça permet, comme on le voit dans le sud, d'avoir des logements qui restent frais en été. Donc c'est des solutions qui méritent d'être creusées. Et puis dans un second temps, effectivement, on peut penser au rafraîchissement. Mais il y a avant tout des solutions passives qui sont très intéressantes à aller étudier. Et encore une fois, pour ça, il n'y a pas de secret, il faut se faire accompagner.
Bon, vous êtes quand même venu pour autre chose. Et moi, j'aime bien votre autre chose. Vous avez essayé d'établir un classement, parce que on n'arrête pas de dire du mal de MaPrimeRénov, parce que on a vu que le législateur avait beaucoup du mal à lui assurer une forme de stabilité. On revient en arrière, on repart à l'avant, on sait plus trop à quel sens se vouer sur nos aides, sur quels gestes, sur combien de gestes, etc. Mais vous êtes allé chasser des primes locales, et comme ça on arrive à atteindre des montants très élevés d'aides locales. Après, toutes les villes ne proposent pas les mêmes aides, et vous avez fait ce boulot d'enquête pour essayer de déterminer quelles étaient les villes qui aidaient le plus ceux qui faisaient la réno, et en plus en fonction de leurs moyens. Donc je vais pas faire de roulement de tambour, je vais vous demander quelle ville vous a le plus positivement surpris.
Alors, effectivement, le constat qu'on a fait, donc chez Itac, ça fait déjà plusieurs années qu'on accompagne les propriétaires dans plusieurs villes.
Ouais.
Et un constat qu'on a fait très rapidement, c'est que les aides locales, que ce soit de la région, du département, de la métropole, de la collectivité, étaient potentiellement très importantes, mais souvent complètement inconnues de la part des propriétaires. Donc on a voulu regarder tout ce qui se passait, et effectivement on a été très heureusement surpris des montants. Les métropoles qui donnent le plus, subventionnent le plus la rénovation énergétique, et surtout la rénovation énergétique globale, c'est donc la métropole de Rouen, la métropole de Lyon, la métropole de Nantes. On a également Strasbourg, Nice. Alors ça va dépendre du niveau de revenu. Chacune a un peu ses avantages et ses inconvénients. Mais globalement, ce qui est très positif, c'est que il y a de l'argent supplémentaire en plus de MaPrimeRénov, qui permet vraiment de passer un cap et de pouvoir financer encore mieux son projet. Donc c'est très positif, et c'est vraiment surtout ça qu'on a voulu mettre en avant.
Et ça, c'est hors MaPrimeRénov, du coup, tous les montants d'aide.
Exactement. Tout ça,
donc,
c'est
par exemple, si je regarde Lyon et votre classement, Lyon, Rouen, on est à plus de 16 000 euros pour les ménages, ce que vous appelez les ménages aux revenus supérieurs, plus de 16 000 euros d'aide auxquels s'ajouteront MaPrimeRénov.
Exactement, c'est tout à fait ça. Ça se cumule. Alors après, il y a des règles d'écrêtement qui sont un petit peu plus technique, mais globalement c'est les deux se cumulent, donc sur un projet de rénovation d'ampleur, par exemple sur un ménage aux revenus élevés, vous pouvez monter sur MaPrimeRénov jusqu'à 42 000 euros, si je ne me trompe pas, d'aide de MaPrimeRénov, auxquelles vont venir s'ajouter les aides de la métropole de Lyon ou de Rouen, qui peuvent s'élever jusqu'à 16 000 euros. Ça va dépendre des travaux que vous allez faire, mais on a modélisé
globalement qu'est-ce qui est le plus aidé, parce qu'on ne va pas faire la liste de tous les travaux, parce qu'on imagine que chaque ville ou chaque collectivité a certains travaux et pas d'autres, voilà. Mais globalement, qu'est-ce qui est le plus aidé aujourd'hui par les collectivités locales ?
Alors souvent, les collectivités encouragent la rénovation d'ampleur de manière plus massive et plus importante qu'à l'échelle de MaPrimeRénov, qui finance encore beaucoup le monogeste.
Ouais.
À l'échelle de la collectivité, c'est souvent les projets d'ampleur. Donc en fait, c'est des bouquets de travaux. Et on va plutôt valoriser le fait d'arriver à une certaine nette énergétique.
Donc là, encore le DPE.
Encore le DPE, exactement. Voire d'arriver à un niveau basse consommation dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment ça qui est encouragé et qui est financé. C'est si vous atteignez ce niveau-là, si vous montrez que vous allez faire des travaux d'ampleur, à ce moment-là, je vous finance, et je vous finance massivement.
Alors, juste, je veux rentrer parce qu'il nous reste qu'une minute trente. Ça passe trop vite. Comment je fais pour avoir ces aides? Parce qu'on a dit, c'est tellement l'enfer pour ma prime Rénov. À qui je m'adresse? Est-ce que là encore, il y a des accompagnateurs? J'appelle Itac, allô, Baudouin,
ça va? Vous allez dire que je radote, mais il faut se faire accompagner. Non, la première chose à faire, c'est de contacter ces fameux accompagnateurs Rénov, comme Itac, ou sa collectivité. C'est-à-dire que si vous allez sur le site de France Rénov, du gouvernement, vous allez pouvoir contacter votre collectivité pour pouvoir en savoir plus sur les montants d'aide et sur les spécificités de votre région, de votre collectivité.
Mais par exemple, si moi j'appelle un accompagnateur Rénov, si je vous appelle vous, Itac, vous allez pouvoir me chasser toutes les primes auxquelles j'ai le droit, ou il va falloir que j'y aille un peu toute seule de mon côté?
Alors, on va vous donner beaucoup d'informations sur comment les obtenir.
Ouais.
Souvent, les métropoles ont envie de garder la main sur ça, parce que ça leur permet de maîtriser la qualité.
Ouais.
Et donc, on va vous mettre en relation avec le bon interlocuteur dans la métropole, donc par exemple de Lyon ou de Rouen, pour que vous puissiez obtenir ces aides. Eux vont vous accompagner, vous ne serez pas tout seul. Ça, c'est vraiment un point très positif, c'est qu'ils vous accompagnent vraiment dans la récupération.
Auprès de l'artisan, etc.
Auprès de l'artisan, et surtout en partenariat avec l'accompagnateur Rénov. Donc tout ça est censé être très fluide. Et l'objectif, en tout cas, c'est de le rendre le plus simple pour les propriétaires.
La simplicité, c'est bien ce dont on a besoin. Marie, je vais vous donner du boulot. On a Eric qui nous suit en direct et qui a l'impression que nous aussi, on est dans le flou en tant que journaliste économique. Il vous questionne sur qu'est-ce que c'est qu'un bon radiateur. Vous avez parlé tout à l'heure d'un bon radiateur en nous racontant l'histoire de Christophe Desmerson.
De Christophe Desmerson qu'on salue.
Alors. Et donc, on ne va pas répondre maintenant parce que sinon, vous allez prendre tout le temps de ma chronique suivante. Mais cher Eric, on va vous répondre parce que c'est vrai que c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'un bon radiateur? C'est quoi le rendement d'un bon radiateur? Mais oui, c'est important. C'est les questions que se posent les gens et qu'on se pose.
Mais vous avez raison.
Et qu'est-ce qu'on entend par le bon rendement aussi, pareil, d'une pompe à chaleur? Est-ce que c'est le genre de question auxquelles vous répondez?
Tout le temps.
Parfait. Bah, vous allez venir nous re-répondre à cette question. Eric, vous avez raison, on est dans le flou un petit peu nécessairement. On essaye d'être moins dans le flou et on va apporter des solutions et des réponses concrètes à vos questions, notamment très pratiquement parlant, sur ce rendement de radiateur. Je vous propose qu'on fasse ça vendredi.
Oui, bah, voilà. Si vous voulez.
Qu'est-ce que c'est qu'un bon radiateur? C'est important, c'est votre argent, c'est votre maison et on vous aide dans cette rénovation énergétique qui est un sacré chantier. Mais bon, voyons le sujet sous un angle positif. C'est un chantier. On est dedans, on avance. Sinon, vous n'auriez pas monté votre boîte, Baudouin.
Ah bah exactement,
voilà.
Les choses avancent dans le bon sens.
Itac, I-T-H-A-Q-U-E pour vous qui nous écoutez en podcast et en radio. On continue à parler d'immobilier tous les jours dans Tout pour investir. C'est vers 11h15 en direct. Et puis, c'est le vendredi pendant une demi-heure de 11h15 à 11h45. Vendredi, nous serons en équipe pour répondre notamment à la question d'Eric et à celle que vous nous enverrez d'ici là ou celle que vous nous avez déjà envoyée parce qu'on a pas mal de questions. Le programme de vendredi, Marie?
Eh bien, nous verrons, nous sommes en train de travailler dessus. Alors, notre auditeur va dire que je suis encore floue, mais sachez-le, j'ai beaucoup de choses à traiter. Je sais en tout cas qu'il y aura Virginie Groslot de Challenge avec nous et de fait, ça vaut son pesant d'or et ça vaut votre écoute de fait.
On n'est pas dans le flou, on est dans
la préparation.
Préparation la plus actuelle possible. Vous restez avec nous, nous ne sommes pas dans le flou non plus à suivre. On va continuer à parler de rénovation et de transition énergétique puisqu'on va réfléchir à comment investir dans les infrastructures. Dans les infrastructures de cette transition énergétique. On va faire ça avec Souleymane Jean-Galadima, cofondateur du Family Office Sapiens. A tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir justement dans cette transition énergétique qui nous occupe en tant que particulier, en tant qu'investisseur aussi, en tant que citoyen. Et pour en parler sous un angle financier, Souleymane Jean, Galadima est avec nous. Bonjour Souleymane Jean.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le cofondateur du Multifamily Office Sapiens. On aborde ce sujet avec vous. Pourquoi investir dans les infrastructures et en particulier celles qui concernent la rénovation, la transition, pour être plutôt précise, énergétique? De quoi parle-t-on?
Alors, il faut savoir que les infrastructures couvrent un large spectre d'activités. On a les transports, les énergies conventionnelles, on a même les télécommunications avec la fibre optique qui est une infrastructure. Et le sujet de la transition énergétique et notamment des infrastructures d'énergie renouvelable est un réel sujet parce que c'est clairement le secteur le plus en croissance. En 2019, on avait des investissements annuels à l'échelle mondiale dans l'électricité qui étaient de l'ordre de 700 millions de dollars. À horizon 2030, on parle de 25 000 milliards de dollars dédiés au secteur de l'électricité, dont la moitié sur la production d'énergie renouvelable, donc panneaux solaires, centrale photovoltaïque, éolien, centrale biomasse, et environ un tiers de cette somme sur l'extension et la modernisation du réseau d'électricité. Donc c'est une vague de fonds, c'est un potentiel d'épargne, entre guillemets, de collecte assez conséquent, et les investisseurs particuliers sont encore peu présents sur ce secteur, puisque d'après les chiffres de France Invest, c'est seulement 2% des fonds collectés sur les infrastructures qui ont été collectés auprès d'investisseurs particuliers et de family office.
Pourquoi, selon vous, ce désintérêt, ce manque d'intérêt, oui, des investisseurs
particuliers ? Je pense qu'on est encore en retard sur la démocratisation. On parlait il y a ça quelques semaines ensemble de la démocratisation du private equity. Elle commence à arriver dans l'environnement des infrastructures, mais ça reste encore une classe d'actifs méconnue. On a souvent tendance à la limiter au sujet des autoroutes et des aéroports, alors qu'elle couvre un grand pan de notre économie. Tout un chacun est confronté aux infrastructures, et que habituellement les infrastructures ont été des placements extrêmement long terme. Et ce qui est en train de se passer, notamment au niveau financier, avec aussi l'augmentation du nombre d'acteurs, l'augmentation de la collecte et aussi un marché secondaire qui permet mécaniquement des durées d'investissement plus courtes, on commence à avoir un intérêt pour les particuliers, parce que particulier se positionner à 20 ans, c'était compliqué. Aujourd'hui, sur des maturités de l'ordre de 10 ans, qui sont équivalentes à celles du private equity, c'est une vraie opportunité. Et nos investisseurs, en l'occurrence, typiquement chez Sapiens, commencent à s'y intéresser, parce que on y reviendra, mais elles présentent un certain nombre d'intérêts, notamment celui du sens. C'est quand même assez intéressant de se dire qu'on finance une centrale photovoltaïque et qu'elle va convertir l'énergie solaire en électricité qui sera utilisée par tout un chacun.
Les infrastructures, ce sont souvent un secteur d'investissement, pardon de le dire un peu simplement comme ça, qu'on regarde en temps de crise quand on ne sait pas trop où regarder ailleurs. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai en tant que journaliste économique quand on traite les sujets. Quand c'est un peu le désordre, on se tourne toujours vers les infrastructures. Est-ce que c'est le vrai, selon vous ?
Alors, c'est parfaitement vrai, parce que c'est une de ces raisons qui explique sa croissance, puisque on a eu une réelle accélération, notamment au lendemain de la crise des subprimes, quand un certain nombre de banques et d'investisseurs institutionnels ont fait ce qu'on appelle le fly to quality, c'est-à-dire voler vers la qualité, vers des actifs sécurisés, résilients, comme sont les infrastructures. Donc oui, c'est un actif qui rassure, qui a en plus, au moment où il était difficile d'avoir de la performance sur les marchés, fourni de la performance à ses investisseurs. Et pourquoi c'est un actif résilient ? Parce que c'est déjà un actif qui présente, notamment quand il est en opération, des flux financiers relativement stables. On sait combien va produire un panneau solaire, on sait combien va produire une éolienne. La variable d'ajustement, c'est naturellement le prix de l'électricité, mais il est en train d'évoluer à la hausse. C'est également un actif avec une forte barrière à l'entrée, puisque souvent les concessions sont fournies sur une durée très longue. Ces concessions sont aussi indexées sur l'inflation. Donc c'est en l'occurrence particulièrement intéressant à cette période d'inflation. Et enfin, c'est surtout des actifs avec une longévité particulièrement longue. La fibre optique, c'est une centaine d'années de durée, donc ça permet notamment à ces opérateurs et de fait aux investisseurs qui les financent de pouvoir avoir un couple risque-rentabilité extrêmement intéressant et d'intervenir à différents stades des infrastructures, que ce soit en amont, au moment de la construction du projet, ou en aval quand il est en opération.
On comprend que les infrastructures aussi, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin tout le temps. Cette stabilité, elle rassure en ce moment par rapport à d'autres actifs ?
Parfaitement. Je vais même aller un peu plus loin, et cet avis n'engage que moi, mais je trouve qu'il y a quelque chose de sociétal, de beau dans les infrastructures, c'est que quel que soit son âge, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quels que soient ses revenus, à une époque effectivement où le vivre ensemble est quelque peu menacé, et bien investir dans les infrastructures, c'est fournir ces besoins, ces services essentiels à une société, à une communauté. Et même si on regarde des situations extrêmement douloureuses, comme par exemple la guerre en Ukraine, et bien on se rend compte que dans ces situations-là, leur focus est en l'occurrence le maintien des infrastructures électriques. Donc ce sont des
le focus des Ukrainiens et des investisseurs. Alors, vers l'Ukraine,
en l'occurrence sur la partie maintien d'un certain nombre effectivement d'opérations. Malheureusement, il y a énormément de destruction d'infrastructures électriques, et donc une bonne partie effectivement du focus sur la reconstruction de l'Ukraine se fait sur les infrastructures, parce que ce sont des éléments essentiels à la vie en communauté. Et au-delà de situations aussi critiques que celles en Ukraine, on sait qu'en France, on a eu quelques projets malheureusement qui n'ont pas pu voir le jour, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, on a eu aussi les péages pour les poids lourds en Bretagne avec les fameux bonnets rouges. Et en fait, à chaque fois, même si le projet n'a pas pu voir le jour, l'État a compensé les engagements des investisseurs. Pour une raison simple, c'est que c'est un sujet tellement essentiel aujourd'hui et à long terme pour le développement des infrastructures que les pouvoirs publics soutiennent accompagne les investisseurs dans cette typologie d'investissement.
Justement, une précision sur ces infrastructures. On se demande avec vous, Souleymane Jean, pourquoi investir dans les infrastructures quand on met des billes dans l'actif infrastructure? On finance des entreprises privées. Vous étiez en train d'avancer un petit peu sur cette notion de sens, de bien public, etc. Comment on articule une réflexion, voilà, sans hypocrisie, sur le fait qu'on finance des entreprises privées pour ultimement financer la collectivité, outiller la collectivité, équiper la collectivité?
Alors, une raison en fait qui a amené d'ailleurs les gouvernements successifs entre les années 90 et 2000 à une large privatisation, puisqu'il y a eu la privatisation de Suez, des aéroports de Paris, des autoroutes du sud de la France, c'est que premièrement il y avait une volonté de se désendetter, et deuxièmement ces infrastructures exigent des investissements colossaux sur le long terme que seuls les opérateurs et les investisseurs privés, fonds institutionnels à l'époque, étaient en mesure de pouvoir engager. Donc nous considérons qu'il n'y a pas, entre guillemets, d'hypocrisie, puisque à l'instant T, les pouvoirs publics n'ont plus les finances suffisantes pour engager ces infrastructures qui sont indispensables à la croissance, que ce soit d'ailleurs dans nos pays développés ou dans les pays en voie de développement. Et ensuite, si on va un peu plus dans le détail, on indique à nos investisseurs qu'il existe deux manières de financer des infrastructures. Soit ce qu'on appelle le private equity d'infrastructure, c'est-à-dire que vous devenez, via un fonds d'investissement, actionnaire d'un opérateur, mais vous pouvez aussi investir directement dans les projets. Et donc avoir un niveau de transparence et potentiellement d'impact beaucoup plus important, puisque là vous pouvez financer une centrale photovoltaïque, une série d'éoliennes, une centrale biomasse dans une région et pour un besoin spécifique.
Se pose la question de la diversification.
Exactement. Et les infrastructures offrent un grand potentiel de diversification. Nous, quand on fait nos allocations avec nos investisseurs, on les catégorise dans la partie actifs réels, notamment aux côtés de l'immobilier. Pour une raison simple, c'est que quand on regarde les statistiques des 20 dernières années, l'indice de corrélation entre les marchés mondiaux type le MSCI World et les infrastructures non cotées est inférieur à 1%. Donc on a une très forte décorrélation entre les marchés côté mondiaux et les infrastructures, ce qui permet, en ce qui concerne Sapiens, de construire des allocations extrêmement résilientes. Donc ça, c'est un élément clé. Et le deuxième aspect, c'est que la France dispose d'asset managers extrêmement brillants. Je pense à Eiffel, donc, qui a été cofondé par Jacques Vera. Je pense à Airgreen, je pense à Meridian, Antin, qui sont des champions internationaux et qui permettent aux investisseurs français particuliers, d'ailleurs quel que soit le montant aujourd'hui, de pouvoir investir dans les infrastructures et donc de diversifier leur patrimoine avec des niveaux de performance qui peuvent être de l'ordre de 4-5% quand on est plutôt sur des infrastructures brownfield, donc en opération, versus plus de 10% de TRI net quand on est plutôt sur des infrastructures greenfield, donc qui sont en phase de structuration et de construction.
Le brown versus le green. Question très concrète, comment peut-on investir dans des infrastructures et quelle est, vous savez, j'aime toujours rapporter ça aux plus modestes des investisseurs qui nous écoutent, à partir de combien on peut être investisseur dans les infras?
Alors aujourd'hui, même avec les ETF en fait d'infrastructure, à partir d'une soixantaine d'euros, puisque c'est à peu près la valeur liquidative de ces ETF, vous pouvez, via un compte titre, via Trade Republic ou d'autres, commencer à investir dans les infrastructures. Vous avez notamment le fameux ETF iShares Water, qui est plutôt sur des infrastructures liées à l'eau. D'ailleurs, c'est un sujet majeur, puisqu'on sait qu'en France, c'est 30% de l'eau potable qui est perdue dans les canalisations. Donc il y a un vrai sujet de rénovation, entre guillemets, de nos infrastructures de distribution de l'eau. Vous avez aussi le Amundi Global Infrastructure. Ensuite, vous avez plutôt la dimension non cotée, puisque aujourd'hui, dans l'assurance vie, vous pouvez avoir certains fonds euros qui s'exposent aux infrastructures pour doper le rendement. Vous avez GF Infrastructure, qui est le fameux fonds de Generali, accessible effectivement aussi à partir de quelques milliers d'euros. Et ensuite, vous avez les fameux fonds professionnels, donc pour les investisseurs un peu plus fortunés, avec les fonds professionnels qui permettent, eux, d'aller chercher, à partir de 100 000 euros, des performances de plus de 10%. Et là, plutôt effectivement sur des durées, des maturités beaucoup plus longues. Alors qu'en assurance vie, vous pourrez investir dans les infrastructures et en plus bénéficier de la liquidité offerte par l'assureur.
Bon, pour finir ce portrait sur les infras, quels sont les risques sous les mains de gens?
Alors les risques, ils sont déjà celui de perte en capital. On rassure les investisseurs sur le fait que c'est un actif risqué. Vous ne faites pas 10% de TRI net sans risque de perte partielle ou totale en capital. Néanmoins, les autres risques un peu plus spécifiques que l'on peut évoquer, c'est notamment le risque politique, le fait du prince, comme on dit. Même si en l'occurrence, en France, on s'est rendu compte que l'État avait toujours soutenu les infrastructures. Donc aujourd'hui, on invite nos investisseurs plutôt à investir dans des pays avec une juridiction solide, plutôt en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord, également en Asie, où il y a des vrais besoins d'infrastructures. Ensuite, l'autre risque, c'est celui de l'effet levier, puisque ce sont souvent des solutions d'investissement, des projets fortement endettés. Donc, il faut faire attention à ce que le coût de la dette ne vienne pas obérer trop fortement la performance. Celui de l'illiquidité, il faut être parfaitement conscient, et c'est encore notre méthodologie des poches d'investissement, que cette poche qui sera investie en infrastructure soit plutôt sur du long terme. Et enfin, vous avez naturellement le risque de taux, parce que ce sont finalement des placements qui vont générer des taux de l'intérêt, des coupons sur la durée. Donc, on peut un peu les comparer aux obligations. Et si on a une hausse des taux, on a un risque de perte de valeur. C'est pour ça que là encore, nous, Sapiens, on préfère se concentrer sur les infrastructures que l'on construit, sur ce qu'on appelle l'equity d'infrastructure, qui lui présente une forte création de valeur et de fait est un peu moins impacté par cette potentielle évolution à la hausse ou à la baisse des taux d'intérêt.
Pourquoi investir dans les infrastructures? Le regard de Souleyman Jean Galadima, cofondateur de Sapiens, pour vous investisseurs ou wannabe investisseurs. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application d'ici quelques minutes si vous l'avez attrapé en cours de route. Merci Souleyman Jean pour votre expertise détaillée sur ces infrastructures, notamment de transition énergétique, qui sont, moi j'en suis convaincue, un placement d'avenir, à vous entendre. À suivre dans notre émission, on vous emmène ailleurs, on vous emmène parler un peu du temps. On va s'intéresser à l'investissement dans les montres. À tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement et néanmoins investir dans le temps. Peut-on le dire comme ça? On va parler investissement dans les montres avec vous, Geoffroy Ader. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste horlogerie de la maison Arcurial. Oui, on va essayer de sortir un petit peu du temps. Hein, on va sortir du court terme, de l'actualité chaude avec vous. On va parler d'investissement dans un objet qui nous est cher, qui nous aide à mesurer chaque jour le temps qui passe, l'heure qu'il est. Et vous allez nous dire pour démarrer que le temps est féminin. Racontez-nous pourquoi.
Alors, le temps est féminin pour une raison qui est assez simple. Vous l'aurez compris, dans le titre, tout est résumé. Vous avez des montres qui sont portées essentiellement par des femmes. Il se trouve que la maison Arcurial, depuis 6 ans, organise, et c'est la seule maison au monde, à organiser des ventes aux enchères sur les thèmes des montres de dames. Jusqu'à présent, le marché...
C'est très, très hors temps contemporain de faire des thèmes sexués. Je tiens à le souligner. Alors,
disons que dans l'univers de l'horlogerie, qui est un univers assez traditionnel, il y a les montres d'hommes et les montres de dames. Et c'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas si on regarde la dimension historique du marché des montres de collection qui existe depuis le début des années 80, on avait essentiellement des collectionneurs au masculin, c'est-à-dire des collectionneurs de montres d'hommes, principalement avec des complications horlogères. Et depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il y a une envie de la part des femmes, mais aussi des hommes qui peuvent collectionner des montres de dames, de collectionner toutes ces montres qui sont finalement une ode au temps par le prisme du féminin. Et ces montres sont diverses et variées. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer, en tout cas pour l'expert que je suis, que la dimension du temps féminin est totalement inversée, en tout cas dans les classements des marques, que celle du masculin.
Bon, vous allez nous raconter ça. Quel est le classement des montres de femmes,
chez les dames, il y a une marque par excellence qui est la maison Piaget. D'ailleurs, cette année, la maison Arcurial va célébrer les 150 ans de la maison Piaget au travers d'une sélection de pièces emblématiques. Nous avons dans le catalogue toute une sélection de montres, principalement des années 60 et des années 70, qui sont des montres en fait qui vont à contre-temps. Il faut savoir que dans l'industrie horlogère suisse, les années 1960 et les années 1970 sont des années très difficiles pour l'horlogerie masculine.
Et pourquoi ?
Parce que l'industrie horlogère suisse était challengée à l'époque par l'industrie horlogère japonaise qui était à l'initiative du quartz. Et donc, il était très difficile, vous savez, il y a toujours des modes dans l'horlogerie, il était très difficile de concurrencer. Mais la maison Piaget avait trouvé un angle d'attaque qui était absolument extraordinaire, c'est-à-dire que il s'inspirait des années 60, des années 70, notamment des défilés de haute couture, On sait que Yves Piaget, donc qui présidait aux destinées de la maison Piaget dans ces années-là, assistait à tous les défilés de haute couture à Paris et s'inspirait de ces créations absolument merveilleuses. On peut citer Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld ou d'autres, et a réussi à fabriquer des montres en toute petite quantité, voire exemplaire unique. On a dans cette vente un exemplaire unique qui a été fait pour un client très important du Moyen-Orient. Et ça, c'est très important parce que on voit une diversité. Ce qui est important, si
la
vous voulez...
La montre est rentrée dans le temps de la fabrication de la haute couture avec une logique de saison. On fabrique des petites séries.
Non, c'était pas vraiment une logique de saison, mais l'inspiration des couleurs, par exemple. Lorsque vous regardez les montres qui sont illustrées, notamment les montres Piaget, vous avez un éventail de couleurs absolument extraordinaire. Du lapis-lazuli, le bleu, du corail, orangé. Vous avez également œil de tigre, cette couleur un peu brune. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui est très amusant. Je me souviens, étant petit, en consultant les magazines, vous savez, d'art, il y avait toujours une publicité avec une femme magnifique illustrant la beauté des montres Piaget. Donc voilà, donc Piaget reste la marque absolue sur ces dernières années. C'est vrai que pour la maison Arcuriale, c'est toujours une évidence de mettre en avant, et surtout pour les 150 ans, une marque qui innove et qui va de l'avant.
On parle de montres de femmes, on se demande si le temps est féminin avec vous. Est-ce que les montres de femmes sont forcément des montres bijoux?
Non, pas forcément, parce que il faut savoir que la plupart de ces montres que nous présentons, en tout cas des années 60-70, sont équipées de calibres mécaniques. La maison Piaget est à la fois une maison qui fabrique de la joaillerie, mais qui fabrique également de l'horlogerie. Il y a depuis plus de 50 ans un calibre qui s'appelle le calibre 9P. Je ne vais pas rentrer dans les détails.
Pour le dire autrement, et vous connaissez mon franc-parler, ça veut dire Piaget fait des vraies montres.
Oui, alors on peut dire ça. J'aime pas dire on fait des vraies montres. On fait des montres.
C'est moi qui l'ai dit.
Voilà, c'est vous qui l'avez dit. On fait des montres et on aime les montres. Parce qu'en fait, le fond de tout ça, c'est aimer. C'est, en fait, est-ce qu'on aime les montres? Et c'est vrai que lorsque l'on a une montre Piaget entre les mains, on voit que cette marque aime les montres. Et surtout, aime les personnes qui vont la porter. Ça, c'est très très important. Il y a cette notion, en tout cas dans le domaine de l'horlogerie et dans le domaine de la collection, cette notion de passion. Et ça, c'est le critère essentiel, en tout cas pour un investissement. On ne peut investir que si l'on est passionné.
Investir quand on est passionné, que ce soit côté fabricant ou que ce soit côté portant, si je puis dire, c'est un peu le nerf de la guerre de cette collection des montres. Je voudrais vous poser une petite question, actualité. Vous savez, on est une émission, on parle d'investissement, de placement. Les temps sont, un peu trouble politiquement, ça impacte et ça occupe l'esprit beaucoup de ceux et celles qui nous écoutent. Est-ce que vous pensez qu'on investit moins dans les montres en ce moment? Est-ce que les montres sont une valeur refuge ou au contraire en ce moment on se dit les montres c'est peut-être pas la priorité? Comment vous ressentez? C'est une question au pied levé, vous vous sentez très libre de me dire que vous n'avez pas les éléments pour y répondre, mais je me la pose.
Il faut situer le débat sur deux plans. Vous me parlez d'événements aujourd'hui qui sont graves. Sur le domaine des montres, nous avons un marché qui est global. C'est-à-dire que nous avons un marché qui est représenté par l'intégralité de la planète. Nos acheteurs sont bien évidemment français, mais sont aussi représentés sur tous les continents. En Asie, en Amérique, en Afrique, au Moyen-Orient. Je pense qu'il est important de bien différencier les choses. Notre métier à nous, c'est de faire rêver les gens. Je ne voudrais pas que les gens se disent « Ah, compte tenu du contexte politique, économique, je ne peux plus rêver. » Il y a certainement aujourd'hui, une chose qui est importante à retenir, c'est que tout le monde a le droit de rêver. Et dans le domaine de l'investissement, c'est pour ça que je vous parle toujours de passion. La passion est certainement le moteur qui va faire venir les collectionneurs du monde entier. Alors bien évidemment, tout le monde a à l'esprit ce qui se passe en ce moment en France, mais je reste toujours prudent. Vous savez, il y a un mot qui est important dans notre métier, c'est gravitas. Prendre de la hauteur, regarder ce qui se passe, ne jamais renoncer, c'est-à-dire les ventes auront lieu le 8 et 9 juillet, et surtout faire rêver les collectionneurs. Nous emmenons les collectionneurs dans un monde qui les fait rêver. Que ce soit Piaget ou d'autres, l'idée c'est de faire rêver les collectionneurs et donc de rentrer dans ce monde qui est celui de l'horlogerie qui existe, et je vous le rappelle, depuis près de 5 siècles. Donc il s'est passé beaucoup de choses en 5 siècles. Et dans les siècles à venir, il se passera encore beaucoup de choses. Donc laissons le rêve s'installer à l'occasion de ces ventes qui vont arriver chez Arcurial.
Laissez le temps au temps et laissez les investisseurs et les collectionneurs rêver. Voilà, c'est la fin de Tout pour Investir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On espère avoir bien répondu aux auditeurs qui nous ont écrit. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route, eh bien pas de panique, elle est à retrouver en podcast et en replay sur le site et l'application de BFM Business d'ici quelques minutes. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10h. On a prévu de parler de la tentation, de l'assurance vie luxembourgeoise pour se mettre à l'abri des turbulences françaises. On parlera aussi de l'impact de la loi Sapin sur l'assurance vie. Et puis c'est jeudi, on parlera ETF, on parlera tracker, investissement dans les trackers, via les trackers. On sera avec l'équipe d'iShares. Avant demain, il y a maintenant, il y a dans quelques minutes, Sandra Gandoin qui prend les manettes de l'antenne. Notre pirate de l'antenne, Sandra Gandoin. Hello Sandra.
Bonjour.
Pirate, je ne sais pas. En tout cas, éminente journaliste aux manettes de cette émission qui répond à vos questions. L'adresse est avec vous à bfmbusiness.fr. Qu'est-ce qu'on peut vous poser comme question aujourd'hui?
Où trouver des aides pour financer mon projet d'entreprise? Quels sont mes droits au travail si j'entame un projet de PMA? Est-ce qu'il faut opposer management bienveillant et management autoritaire? Et puis, cette question du jour, combien de temps vous faut-il pour décrocher du travail quand vous êtes en vacances? Rappelez-vous notre adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Nos quatre experts sont là jusqu'à 13h pour vous répondre en direct.
C'est dans quelques minutes, vers 15h. Amaury de Tonquédec prendra les manettes pour BFM Crypto, le club. Bonjour Amaury.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler?
Le marché crypto est toujours dans un range, donc on va revenir à Mika, ce qui se passe, hein, toujours cette application, cette loi, enfin ce règlement qui concerne les stablecoins qui est appliqué depuis le début de semaine. Il y a des choses qui se passent toujours du côté de Circle, le deuxième émetteur de stablecoin au monde, et on aura Anne Maréchal, l'ancienne de l'AMF, que vous connaissez Lorraine, qui est déjà venue dans cette émission, qui accompagne justement Circle et qui va nous parler de, bah, tout simplement de l'avenir du Circle et des stablecoins et de l'avenir des stablecoins dans l'Union Européenne et puis des tendances à venir.
Voilà, on se quitte avec le Bitcoin qui reste très peu volatile, hein, depuis un moment finalement, et qui se traite autour de 60 522 $. On verra si le mois de juillet sera le mois de la libération pour le Bitcoin et les cryptos qui suivent. C'est la fin de Tout pour investir. Très bonne écoute sur BFM Business.
Tout pour investir sur BFM Business.